des années-lumière, édition du 5 septembre 2010. Gaz de schiste, le quoi et le pourquoi. Bonjour, ici Yannick Villedieu d'Équipe, bienvenue à cette nouvelle édition du magazine d'actualité de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Au menu aujourd'hui, 3000 tours de Terre pour l'astronaute Chris Hadfield, Sophie-André Blondin.
Il deviendra en 2012 le premier astronaute canadien à commander l'équipage de la Station spatiale internationale.
Je vous parle ensuite de ce qui demeure le parent pauvre de la médecine, la douleur. Puis nous allons au courrier des auditeurs avec vous, Yannick Tremblay.
Et on va vous parler du sel, ce qui peut se produire non pas quand on en consomme trop, mais trop peu.
Suivra la chronique avec Yves Gingras cette semaine qui parle des relations entre science, expertise technique et citoyens, et cela dans le contexte du débat sur les gaz de schiste. Deuxième heure, gaz de schiste justement, premier volet de notre grand dossier sur cette question, avec vous Chantal Srivastava.
Le béaba de cette roche et le gaz qu'elle contient, en avons-nous besoin?
Et les deux autres volets de notre dossier suivront au cours des deux prochaines semaines. Et pour terminer l'émission, je vais recevoir l'auteur de la semaine, le cancérologue David Kaya, qui vient de publier « Le vrai régime anti-cancer » aux éditions Odile Jacob. Mais pour commencer, Chris Hadfield.
À l'avant-plan des réussites canadiennes dans l'exploration spatiale, il y a nos astronautes qui consacrent leur vie à la découverte de nouveaux horizons. À cette liste impressionnante de réalisations vient s'ajouter une autre distinction importante, M. Chris Hadfield, qui sera le premier Canadien à assumer le rôle de commandant de la station spatiale. Félicitations, M. Hadfield.
La ministre fédérale José Werner annonçant cette semaine que l'astronaute Chris Hadfield commandera la Station spatiale internationale lors de sa prochaine mission à la fin de 2012. C'est une première pour le Canada, Sophie-André Blondin.
Oui, Yannick, pour la première fois en orbite, le patron sera canadien.
Wow.
Chris Hadfield passera 6 mois à bord de la Station spatiale et pour les derniers mois, donc à compter de mars 2013, il assumera le commandement. Le directeur général du programme d'exploration spatiale à l'Agence spatiale canadienne, Gilles Leclerc, explique comment et pourquoi Chris Hadfield a été choisi.
C'est le résultat, évidemment, de nombreuses discussions, de nombreux pourparlers avec nos partenaires internationaux et notamment avec la NASA. C'est aussi le résultat de droits qu'on a d'utilisation de la station spatiale qui inclut des droits d'équipage, du temps sur la station pour des astronautes canadiens. Le Canada est un participant au programme de la station spatiale internationale à la hauteur de 2,3%. Bon, il y a des calculs très précis qui sont faits pour refléter les droits de chacun des partenaires. Donc, aujourd'hui, on annonce que Chris Hadfield va être sur la Station spatiale internationale pour 6 mois. Et sur ces 6 mois-là, il va être commandant pour 2 mois, ce qui est extrêmement important pour nous, significatif, symbolique.
Et qui choisit? Pourquoi c'est Chris Hadfield?
Ça se fait, évidemment, la NASA a son mot à dire, nos partenaires internationaux, nous aussi. Chris Hadfield a démontré des qualités de leader, des qualités de membre d'équipe qui ont fait que il a une réputation extraordinaire. Chris est une vedette parmi les nombreuses vedettes qu'on a dans le domaine spatial. C'est quelqu'un qui est très apprécié par nos partenaires. Il est très connu à la NASA. Ça fait des années qu'il est en poste à Houston. Pendant 18 mois, il a été à Star City, le représentant officiel de la NASA, donc en charge de toute la liaison, de l'entraînement des équipages internationaux. C'est un de nos grands astronautes, Chris.
Gilles Leclerc, qui est directeur général du programme d'exploration spatiale à l'Agence spatiale canadienne. Alors, Sophie-André, hein, Chris Hadfield, il faut le dire, c'est un grand astronaute, on l'a entendu, et c'est un habitué des premières.
Oui, premier, seul Canadien à visiter la station russe Mir, c'était en 1995. Il a aussi été le premier Canadien à effectuer des sorties extravéhiculaires, à évoluer dans l'espace à l'extérieur de la station spatiale, une expérience qui va lui servir dans son poste de commandement. Par ailleurs, il était aussi relève pour son collègue Robert Thirsk lorsque Robert Thirsk est parti pour son séjour de 6 mois en 2008-2009. Et aussi, le printemps dernier, il a eu un avant-goût du rôle de commandant, mais ça, c'était sous l'eau. C'était lors de la mission NEMO de la NASA. C'est une mission de 2 semaines qui simulait l'isolement, l'autonomie des séjours prolongés en espace ou sur la Lune ou sur Mars, mais tout ça se passait sous l'eau. Eh bien, malgré cette feuille de route bien garnie, il lui reste beaucoup de travail avant de partir en 2012. Chris Hadfield.
La vie d'un astronaute, c'est une vie de préparation, une vie d'entraînement. Pas seulement à l'agence à Montréal, mais naturellement à Houston et partout en Russie, en Japon, partout. Et donc, c'est nécessaire d'être préparé. Des choses techniques incroyables, des détails, les petits détails, les charges utiles dans la station, les sorties extravéhiculaires, les robots comme le Canadarm2 et le Dextre qui est installé sur la station. C'est nécessaire d'être expert. Tous ces petits détails, et ça prend beaucoup de temps. Aussi, comme équipage, c'est nécessaire de savoir exactement les actions si nous avons un cas d'urgence dans la station. Comme commandant, ça reste à moi de prendre les décisions propres, et donc c'est nécessaire de faire les exercices comme ça en Russie et aux États-Unis, dans les grands simulateurs des parties de la station. Donc, beaucoup de préparation, beaucoup de ponts entre maintenant et la date de lancement, novembre-décembre de 2012.
Parlons de ce lancement et de ce voyage. Vous y allez en Soyouz. Il sera à ce moment le seul véhicule qui transportera les astronautes vers la Station spatiale internationale. Mais je vous ai entendu dire que c'était une sorte de nouveau Soyouz.
Oui, le Soyouz, depuis presque le temps de Gagarine, presque 40 ans déjà, les Russes ont utilisé un type de la Soyouz. Soyouz, ça veut dire Union en russe. Mais il y avait des améliorations, des changements de le dessin. Donc, maintenant, il y a un nouveau modèle de ça. C'est le Soyouz 700. C'est le nom du modèle avec les avioniques et les choses dedans différentes. Les ordinateurs sont différents. Les présentations pour les cosmonautes sont différentes. Et donc, c'est nécessaire de refaire l'entraînement, de recevoir tous les détails de Soyouz. J'ai fait ça il y a 7 ans, mais maintenant, avec les différences, c'est nécessaire de refaire. Et c'est réel cette fois. C'est pas seulement l'entraînement, mais je vais être le copilote de la Soyouz. Et donc, c'est nécessaire d'être absolument préparé.
Et une fois que vous serez d'ailleurs sur place sur la Station spatiale internationale, le Soyouz sera le seul véhicule pour transporter des astronautes, mais on sera en plein test de plusieurs véhicules de transport pour le matériel. Vous devrez coordonner tout ça.
Oui, le Soyouz, c'est le taxi entre la Terre et la station, et ça reste arrimé pendant tout le voyage, pendant les 6 mois. C'est nous arrivons dans le Soyouz et nous atterrir dans le même Soyouz après 6 mois. Mais c'est nécessaire de voir la nourriture, les vêtements, les expériences, les charges utiles, toutes les petites choses nécessaires, l'oxygène, de l'eau, on a besoin de ça. Et donc, les autres choses comme le Soyouz, les Russes ont le Progress, les Européens ont le ATV, les Japonais ont créé ça, HTV, les Américains sont en train de faire ça, SpaceX, qui a un véhicule Dragon 9, et aussi une autre compagnie aux États-Unis. Donc, beaucoup de moyens différents entre la Terre et la station. Mais ça reste à nous, comme astronautes, d'utiliser le Canadarm2, de poigner, de saisir les véhicules.
Il faut les attraper?
Il faut les attraper et installer, arrimer avec la station. Donc, c'est nécessaire de préparer pas seulement pour un véhicule, mais beaucoup de différents types de véhicules. Et donc, c'est un problème d'entraînement.
Autre changement sur la station spatiale telle que vous allez la retrouver, c'est qu'il y aura, on veut en tout cas, plus de science et moins de maintenance.
Ouais.
Quelles sont les expériences scientifiques que vous savez que vous devrez superviser là-haut?
Maintenant, je pense qu'il y avait aux environs de 100 différentes expériences dans la station. On attend maintenant la dernière partie de la station, le laboratoire russe. Mais maintenant, avec les laboratoires internationaux de la station, des expériences pour regarder l'univers avec le Alpha Magnetic Spectrometer, beaucoup qui regardent l'atmosphère, la communication et la santé de notre planète. Et dans la station, il y a des expériences de le corps, de le squelette humain, de les changements dans la pesanteur, dans la microgravité. Il y a des bois qui une expérience canadienne avec les bois pour
on refait pousser une forêt.
Oui, pas une forêt, mais pour mieux savoir exactement les petits morceaux d'un arbre, comment ça fonctionne sans la gravité, si c'est possible de dessiner un arbre comme le blé, comme une chose qu'on peut faire ici sur Terre. Beaucoup d'expériences différentes. Pendant les prochains 2 ans, je veux mieux savoir exactement les détails pour les 6 mois, pour moi et pour l'équipage.
On parle aussi de maintenance parce qu'il faut quand même tenir en forme ce grand véhicule qui est soumis à des conditions extrêmes.
Oui, c'est dans le vacuum de l'espace. Les températures qui changent 16 fois par jour en arrière de la Terre et dans le Soleil, rapidement, 8 km par seconde, la vitesse de ça. Il y a des micrométéorites qui se frappent toujours. C'est un environnement pas amicable pour les humains, mais aussi pour une machine, un véhicule comme la station. Et donc, c'est nécessaire d'être le repairman pour ça, de savoir comment je peux le faire, tous les petits détails dans la station, mais aussi dehors, les grandes batteries, les grands panneaux solaires, tout ça. Et donc, ça prend les mois de préparation sous l'eau dans la grande piscine à Houston, avec une maquette de ça, aussi en Russie, à Cité des Étoiles. Donc, beaucoup de, je n'ai pas beaucoup de temps libre entre maintenant et le décembre 2012.
Merci beaucoup.
Plaisir.
Alors, c'était l'astronaute Chris Hadfield, donc qui va devenir, après tout ça, le premier Canadien à détenir le titre et aussi la responsabilité, il faut bien le dire, Sophie André, de commandant à bord de la Station spatiale internationale.
Et parmi les instruments scientifiques avec lesquels il doit se familiariser d'ici là, il a mentionné le Alpha Magnetic Spectrometer. C'est un détecteur de rayons cosmiques qui sera installé sur la Station spatiale en 2011, qui vient tout juste d'arriver au Centre spatial Kennedy. Le détecteur sera le plus grand instrument de la station. Il pourra mesurer les flux de rayons cosmiques pendant 10 ans, puisque la vie de la station a été allongée, pour déterminer des choses très simples, par exemple, comme la nature de la matière noire.
Quelle chose très simple. Mais il faut dire que toutes les expériences menées donc, à bord de la station n'ont pas ce degré de spécialisation, hein, quand même.
Non, et même que pour le séjour de Chris Hadfield en 2012, l'Agence spatiale canadienne veut solliciter des idées chez vous, dans le public, chez les jeunes surtout aussi, pour suggérer des expériences scientifiques. Là-dessus, Anna Capignari, du service des communications de l'agence.
Sur la station spatiale, il existe déjà toutes sortes de matériel. On va faire un répertoire de ce matériel et on va demander aux Canadiens de réfléchir à des expériences scientifiques que Chris pourrait faire pendant la mission, pendant qu'il est dans l'espace. Donc, on va essayer de passer à travers les professeurs dans les écoles et surtout les professeurs de sciences.
Il n'y a pas que la science, il y a un côté artistique à la mission. Et d'ailleurs, l'écusson de la mission de Chris Hadfield représente un pic de guitare parce qu'il est guitariste. Ses deux autres comparses sont aussi guitaristes. Et vous comptez miser aussi sur la musique.
Exactement. Chris a une passion pour la musique. Il a toujours joué la musique. Quand il était sur Mir, il a apporté une petite guitare. Alors, il avait l'intention de jouer cette guitare-là dans l'espace. Et vu qu'il, pour lui, la musique, c'est quelque chose qu'il aime partager avec les gens, il voudrait pouvoir jouer de la musique avec les gens sur Terre. Donc, il s'agit de trouver de la technologie, des façons d'inviter les Canadiens. Et encore une fois, on aimerait bien que les jeunes y participent particulièrement pour jouer de la musique avec Chris alors qu'il sera dans la station spatiale.
Anna Capignari de l'Agence spatiale canadienne.
Ben oui, un spectacle en direct de l'espace. Qui sait, Chris Hadfield pourrait réussir là où le fondateur du Cirque du Soleil, Guy Laliberté, a eu un succès plutôt mitigé.
On verra. Merci beaucoup, Sophie André.
Au revoir.
Lily Boisvert, journaliste au site Internet des Années-Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité et de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radiotradeunioncanada.ca/lumière et également en diffusion en direct par satellite Sirius et en flux MP3. Vous pouvez aussi emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site Internet. Les Années-Lumière débordent de l'espace-temps.
la douleur, si vous regardez, en dépit du fait qu'il y a une grande prévalence, la quantité de fonds de recherche qui est consacrée à l'étude de la douleur en comparaison aux maladies cardiovasculaires, au cancer, au VIH-SIDA, c'est des miettes encore, là.
Manon Choignière est psychologue au Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, où elle est attachée au Centre d'expertise sur la douleur. Elle faisait partie du comité d'organisation du 13e Congrès mondial sur la douleur qui se tenait cette semaine à Montréal et qui avait attiré plus de 6000 personnes. Qui toutes ces 6000 personnes font le même constat que Manon Choignière. En dépit du fait, et c'est un chiffre étonnant, écoutez bien, en dépit du fait que la douleur chronique touche 20 à 25% des personnes de plus de 18 ans, la douleur reste le parent pauvre de la médecine. Manon Choignière.
La douleur chronique, c'est pas très visible. Les gens, vous-même, vous êtes surpris qu'il y ait une personne sur 4 ou sur 5 qui souffre de douleur chronique. Et je pense que une des retombées qu'on espère avoir avec ce congrès-là, c'est que les gens soient plus au fait, le grand public soit plus au fait que la douleur chronique, c'est une maladie importante, c'est pas juste un symptôme, c'est une maladie qui affecte diverses sphères de l'activité quotidienne. Les gens ne sont plus capables de travailler, ils ont des problèmes de sommeil, des problèmes familiaux, ça coûte énormément cher. On a estimé au Canada, puis c'est probablement sous-estimé, 6 milliards de dollars en perte de productivité et d'utilisation de ressources de santé. Alors, c'est un phénomène qui, malheureusement, et excusez-moi l'anglicisme, mais c'est pas sexy, la douleur chronique. Tu sais, on meurt pas de douleur chronique. Alors, c'est moins connu. Puis la douleur chronique, on la retrouve dans le cancer, on la retrouve dans l'arthrite, on la retrouve dans... Alors, c'est comme un peu noyé.
Noyé, négligé, oublié, mais aussi... compliqué. La douleur chronique reste un vrai casse-tête, c'est le cas de le dire, aussi bien pour les cliniciens que pour les chercheurs. J'en prendrai ici deux exemples, en commençant par la fibromyalgie, qui, malgré certaines ressemblances, est différente quand même du syndrome de fatigue chronique. La fibromyalgie, à proprement parler, touche 2 à 3% de la population. Et elle se caractérise par des douleurs tenaces, type rhumatisme, partout dans le corps. Christine Sedraski est psychologue au Centre multidisciplinaire de traitement et d'évaluation de la douleur aux hôpitaux universitaires de Genève, en Suisse. Elle travaille surtout avec des patients souffrant de fibromyalgie.
Comme c'est une maladie qui impose des limitations, comme c'est une douleur constante, comme souvent les gens sont amenés à devoir modifier leur style de vie, leur manière de faire, parfois même leur travail... Bien entendu que ça a aussi des conséquences au niveau de l'anxiété, au niveau de la tristesse, au niveau de l'obligation de changer de vie. Et ça, c'est une difficulté majeure dans la fibromyalgie.
Une maladie aussi qui est relativement mal définie au point de vue médical. D'ailleurs, ça fait peut-être partie du problème. Hein. Ce sont des patients qui ne sont pas toujours très bien reçus par l'appareil médical, on a l'impression.
Alors effectivement, c'est une... ce qu'on appelle un syndrome douloureux chronique, qui souvent est décrit comme faisant partie des syndromes médicalement inexpliqués. On va dire que ça veut dire que la médecine a de la peine à comprendre, à expliquer exactement ce qui se passe. On connaît mal, un peu à l'heure actuelle, les mécanismes sous-jacents à la fibromyalgie. Ce qu'on sait, c'est que c'est là, c'est que c'est des patients qui sont là et qui souffrent. Ce sont en majorité des femmes. Et ce sont en majorité des femmes qui, effectivement, souvent nous disent qu'elles se sentent peu ou mal écoutées par leur entourage. Leur entourage, c'est aussi bien leur entourage personnel, familial, que leur entourage professionnel, que leur entourage médical, où elles ont l'impression que... Il faut quand même dire que souvent, elles ont l'air bien, et elles disent elles-mêmes, on ne prend pas au sérieux, on ne croit pas, parce que ça ne se voit pas. Vous voyez, quand on a un bras cassé, tout le monde vous dit « Oh mon Dieu, mais ma pauvre, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu t'es fait? Ça fait mal !» Alors que là, comme il n'y a pas de symptômes visibles, comme ça ne fait, si j'ose dire, que mal, très souvent, elles ont l'impression qu'on ne les écoute pas, qu'on ne les prend pas en sérieux. En plus, on n'en meurt pas. Alors vous voyez, il y a tout ce qu'il faut pour avoir l'impression que ce n'est pas quelque chose de sérieux. Or, c'est quelque chose de très sérieux parce que c'est, très souvent, ça amène des changements radicaux dans la vie.
Alors vous êtes psychologue, on a l'impression que la dimension psychologique dans cette maladie, dans la fibromyalgie, est importante. Est-ce que c'est cause ou conséquence du problème ?
Alors ça, c'est une immense question à laquelle je crois personne n'a de réponse. Vous voyez, quand on a tout le temps mal, ça finit par tomber sur le système, comme on dit, hein, comme on peuvent le dire parfois les patients qui ont des maux de dos, hein, on finit par en avoir plein le dos. Alors, les fibromyalgiques, elles en ont plein partout, à force d'avoir mal, et c'est difficile. Ce que les patients disent, montrent très bien, c'est comment, finalement, des événements très difficiles dans leur vie, un état de tristesse important, des événements très traumatiques, peuvent être liés au début des symptômes. Ça ne veut pas dire que c'est la cause, forcément, en tout cas, pas du point de vue des patients, et on n'a jamais pu montrer que ça l'était, mais c'est davantage des événements qui arrivent en même temps, qui fabriquent une sorte de contexte global où la douleur et les événements de vie et la tristesse et la dépression ou des chocs arrivent finalement de manière très confondue et fabriquent un contexte de vie qu'on pourrait dire difficile.
On a une panoplie de traitements globalement. Est-ce qu'on arrive quand même à faire quelque chose, la psychologue, médecin, etc., réunis à faire quelque chose d'efficace pour les gens qui ont cette fibromyalgie?
Alors oui, je crois que les études montrent tout à fait clairement qu'il y a des médicaments qui ont une efficacité et des études qui montrent tout à fait clairement que de travailler en équipe autour de ces patients, ça a un bénéfice, que si on peut les aider à développer des stratégies personnelles, à mieux comprendre leur corps, à être mieux à l'écoute de leurs symptômes, tenir compte aussi des aspects psychologiques quand c'est nécessaire, oui, les thérapies qu'on appelle multidisciplinaires, ces prises en charge-là ont un effet positif chez les patients. Ce n'est pas le remède miracle. Personne ne pourra vous dire qu'on va enlever la douleur, enlever la raideur, enlever la fatigue et faire dormir comme ça un patient qui souffre de fibromyalgie. Mais par contre, il n'y a aucune raison de baisser les bras face à des patients qui ont des douleurs, qui occasionnent à ce point-là des difficultés dans leur vie quotidienne. Et je crois qu'on a beaucoup à gagner, et les patients et les thérapeutes, à travailler ensemble, à tenir compte du point de vue, pour nous thérapeutes, de tenir compte du point de vue des patients, de ce à quoi les patients peuvent adhérer, ce à quoi ils peuvent croire, et à se faire mutuellement confiance pour avancer dans la prise en charge.
Christine Cedraski est psychologue aux hôpitaux universitaires de Genève en Suisse. Alors, deuxième type de douleurs chroniques très compliquées, les douleurs neuropathiques, c'est-à-dire une grande catégorie de douleurs qui sont causées par des maladies ou des lésions aux nerfs. Les explications du neurologue Didier Bouassira du Centre d'études et de traitement de la douleur de l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne en France.
Ça peut concerner des maladies, des lésions, des maladies des nerfs périphériques. Par exemple, au cours du diabète, il y a très souvent une atteinte des nerfs périphériques. On parle de neuropathie, mais il y a beaucoup d'autres maladies du système nerveux qui peuvent donner donc des lésions des nerfs, de la moelle épinière ou du cerveau, des maladies ou même des traumatismes. Un simple accident avec une lésion traumatique d'un nerf, par exemple, vous coupez un nerf au cours d'une fracture ou quoi, au cours d'un accident quelconque, eh bien, il peut résulter de ça des douleurs. D'accord ? Et donc, ces douleurs sont très particulières dans le sens où elles ne répondent pas aux antalgiques usuels, aux antalgiques habituels, que ce soit les anti-inflammatoires, que ce soit l'aspirine, le paracétamol, que ce soit même les morphiniques. La morphine ne marche pas très bien sur ces douleurs. Et on comprend pourquoi elle ne marche pas très bien, c'est que les mécanismes de ces douleurs sont très différents de ceux des douleurs usuelles, habituelles, par exemple la rage de dents ou la douleur d'arthrose, n'ont pas du tout les mêmes mécanismes que ces douleurs dites neuropathiques.
Et alors ces douleurs neuropathiques, c'est quoi leur place dans le paysage de la douleur, le grand paysage de la douleur ?
Alors, elles ont une place importante du fait des difficultés thérapeutiques qu'elles entraînent. Donc, elles font un peu peur, même aux spécialistes de la douleur. On sait très bien que quand on est en face de soi un patient qui a des douleurs neuropathiques, on va avoir des difficultés à le prendre en charge. Ça va être plus difficile que dans d'autres situations cliniques. Sur le plan des chiffres, elles représentent environ entre un quart et un tiers de l'ensemble des douleurs chroniques.
Alors, identifier, diagnostiquer, évaluer la douleur, hein, c'est un grand défi. Et vous avez mis au point un outil d'évaluation qu'on peut utiliser, je dirais, dans la clinique de tous les jours, c'est bien ça ?
Tout à fait. Donc, nous, notre objectif, ça a été de développer des outils pour aider le clinicien, à la fois dans l'identification, donc la reconnaissance de ces douleurs neuropathiques, car Malheureusement, nous avions constaté, c'est une donnée qui est bien connue, la grande majorité des médecins non spécialistes de la douleur ne connaissent pas bien ou ont du mal à reconnaître ces douleurs neuropathiques. Donc il nous a semblé important d'essayer de développer des outils qui permettraient de faciliter l'identification de ces douleurs par des non spécialistes. Et donc un de ces outils, c'est l'outil DN4 que nous avons validé en France, conçu pour être extrêmement simple à la fois dans leur utilisation et dans leur résultat, dans l'analyse des résultats. Et il s'agit en fait en gros de poser 7 questions au patient, de regarder concernant sa douleur, la description de sa douleur. Est-ce que votre douleur ressemble à des brûlures? Est-ce que c'est des décharges électriques? Est-ce que vous avez des fourmillements, des picotements? Donc des questions extrêmement simples. Le patient a juste à répondre oui ou non. On a juste à faire ensuite la somme des réponses positives et on peut partir d'un certain seuil, dire la douleur a de fortes chances d'être neuropathique ou n'est pas neuropathique. Donc on a volontairement validé un outil de façon qui était très simple. Il se trouve qu'il a de très bonnes performances quand on compare au diagnostic qu'aurait fait un expert. Donc il est utile, il est utile. Bien sûr, il n'est pas parfait, hein. Ce n'est pas 100% de diagnostic, mais on est à proche de 80-90%, donc c'est quand même pas mal du tout. Et donc l'intérêt, c'est que on espère que la diffusion de ce genre d'outils permettra une meilleure reconnaissance de ces douleurs neuropathiques et bien entendu, tout cela devrait déboucher sur une meilleure prise en charge des patients.
Est-ce qu'un outil comme ça vous permet ou permet aux cliniciens, aux spécialistes de la douleur ou aux généralistes de mieux traiter ou prendre en charge la douleur, ces patients-là ?
Oui, l'objectif c'est celui-là. L'objectif c'est de mieux reconnaître, bien sûr, pour mieux traiter. Comme je vous le disais précédemment, ces douleurs neuropathiques ne répondent pas au traitement habituel de la douleur. Donc si on donne des anti-inflammatoires à ces patients, par exemple, ça ne marchera pas. Mais si, pour pouvoir leur donner autre chose que les anti-inflammatoires, encore faut-il reconnaître la douleur. Donc le simple fait de reconnaître ces douleurs neuropathiques va amener les médecins à utiliser les produits qui sont recommandés pour prendre en charge ces patients, c'est-à-dire, en gros, des antidépresseurs ou des antiépileptiques, donc des produits qui, initialement, n'avaient pas été développés pour la douleur, mais qui se trouvent être efficaces sur ces douleurs neuropathiques. Mais encore faut-il reconnaître ces douleurs pour pouvoir proposer à ces patients ce type de traitement. Donc oui, en termes de prise en charge, la reconnaissance de ces douleurs va avoir un impact immédiat sur le traitement.
Alors bien sûr, traitement, on parle de médicaments, c'est d'abord ça qu'on vise, qu'on cherche. Vous dites on peut utiliser des médicaments un peu exotiques là, pour la douleur, pour traiter la douleur. Est-ce que vous, dans votre trousse médicale, là, vous vous sentez bien équipé actuellement pour prendre en charge ces douleurs neuropathiques ?
Non, malheureusement. Malheureusement, les douleurs neuropathiques restent un grand défi pour nous, les spécialistes et les non-spécialistes. C'est ce qui justifie toutes ces recherches, tous ces travaux autour des douleurs neuropathiques. On est capable de traiter de façon satisfaisante seulement 40% des patients. Donc il reste encore beaucoup de travail à faire pour essayer de trouver des solutions pour les autres patients. Et c'est ce qui justifie tous ces investissements dans la recherche, que ce soit dans la recherche très expérimentale. Donc on essaie de mettre au point de nouvelles molécules et dans la recherche clinique qui vise à tester, à évaluer ces nouvelles molécules chez les patients directement.
Didier Bouassira est neurologue au Centre d'études et de traitement de la douleur de l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne en France. Alors, on l'a entendu, la douleur reste et pour cause un problème de santé difficile et même après une grande rencontre comme celle de ce congrès mondial sur la douleur, les objectifs doivent demeurer raisonnables. De nouveau, Manon Choignière du Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal.
Ça sort très clairement dans le congrès ici, c'est qu'il n'y en a pas de pilule miracle. C'est que c'est souvent une combinaison de médicaments. Et encore plus important, c'est que même si on donne juste des médicaments, ça ne fonctionnera pas parce que quand on a mal en quelque part, on a tendance à limiter nos activités physiques. Alors, c'est le contraire qu'il faut faire pour la douleur chronique. Au contraire, il faut être plus actif. Donc, dans le traitement, on a besoin de faire intervenir un physiothérapeute. Les patients qui développent des problèmes de douleur chronique vont souvent avoir de la colère, ils vont souvent de l'anxiété, ils vont souvent développer des problèmes de dépression chronique, de sorte qu'il va falloir qu'on fasse intervenir un psychologue aussi. Alors, ça prend vraiment un... Par contre, si on essaie, avec la douleur chronique, de travailler juste avec l'hypnose, par exemple, bien, ça ne marchera pas non plus. C'est une combinaison de traitements qui va faire en sorte que... Puis, c'est là qu'on est rendu actuellement. Puis, c'est sûr qu'on veut développer des nouvelles molécules, mais je pense que notre objectif, c'est pas d'éliminer complètement la douleur chronique. On n'est pas capable de le faire actuellement, mais c'est de la soulager suffisamment pour que le patient soit plus fonctionnel, avoir une meilleure qualité de vie, puis recommencer à travailler si c'est possible.
La psychologue Manon Choignière du Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal faisait partie du comité d'organisation du 13e Congrès mondial sur la douleur qui se tenait cette semaine à Montréal. Vous écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Venir en deuxième heure, le premier volet de notre dossier sur les gaz de schiste qu'on produit à partir de roches comme celle-ci.
Ici, on a quelques échantillons de cette unité. Comme vous voyez, une roche à grains très fin, on ne voit pas de particules, c'est très foncé. Si on casse cette roche, vous allez voir, là, en la sentant, on sent immédiatement une odeur d'hydrocarbures de condense. Donc, ce que je viens de faire en cassant la roche, c'est une expérience à échelle très réduite d'une fracturation artificielle, comme certaines compagnies le font en grande profondeur.
C'est le courrier des Années-Lumière. Cette semaine, la question vient de Mme Madeleine Bastien de Québec.
Ma question est, si on manque de sel minéraux, est-ce que ça peut amener des conséquences jusqu'à perdre connaissance?
La nutritionniste Marie-Josée Leblanc du Centre Extenso va nous aider à y voir plus clair. Jeannick Tremblay lui a demandé si justement une carence en sel minéraux pouvait entraîner des pertes de conscience.
Oui, c'est très possible. Donc, un manque de sels minéraux est souvent provoqué lorsqu'on a une déshydratation, donc un manque d'eau dans l'organisme, ce qui fait que les cellules peuvent à un moment donné avoir tellement un manque d'eau qu'elles ratatinent, si on veut, et le transport des sels minéraux, donc lorsqu'on parle de sels minéraux, on parle surtout de sodium et de potassium, le transport de ces sels-là ne se font pas comme il faut, et au cerveau, ça peut provoquer effectivement des pertes de conscience.
Je reprends vos propres mots. Dans quel cas les cellules sont-elles susceptibles de se ratatiner?
Bien, toujours dans des cas de déshydratation assez extrême. Là, on parle de vraiment une forte déshydratation. Il y a des conditions médicales qui peuvent faire en sorte que certaines personnes soient plus à risque. Par exemple, si elles souffrent de maladies rénales, le rein est l'organe qui va s'occuper de rééquilibrer là, les sels minéraux, de les retenir lorsqu'on n'en a pas suffisamment dans l'organisme. Si la personne a des problèmes rénaux, ça pourrait occasionner des pertes de sodium, donc une hyponatrémie ou une hypokaliémie dans le cas d'une perte de potassium. Donc, oui, on pourrait avoir des effets, là, des vertiges qui pourraient devenir là, des pertes de conscience.
Justement, pour les gens qui nous écoutent, qui entendent ça, peut-être vont-ils un peu s'inquiéter. Règle générale, est-ce qu'il faut justement se soucier de notre consommation de sels minéraux? Est-ce qu'il faut y accorder une importance particulière?
En général, non. Vous n'avez pas vraiment à vous inquiéter d'un manque de sels minéraux dans l'organisme par l'alimentation parce qu'on en a dans plusieurs aliments. Lorsqu'on mange une alimentation variée, généralement, on a des quantités très suffisantes de sodium, de potassium et de chlore. Même, on a le problème contraire, c'est qu'en général, dans une alimentation nord-américaine, on consomme trop de sodium. Donc, c'est très, très rare qu'on va être en manque de sels minéraux. Et puis, avec une alimentation variée, lorsqu'on va rééquilibrer les pertes en eau qu'on a chaque jour, donc en buvant de l'eau, en buvant des liquides comme le lait, manger de la soupe, par exemple, ou même des aliments, par exemple des fruits. Les fruits sont très, très riches en eau. Il n'y a absolument pas de problème qui pourrait occasionner là, des pertes de conscience, par exemple. Dans certaines circonstances, oui, là, il faut faire un petit peu plus attention à notre apport en sels minéraux. Par exemple, lorsqu'on a des diarrhées, des vomissements, et ça peut faire en sorte que on va éliminer trop de sels minéraux. Puis à ce moment-là, il est bien de prendre des liquides qui sont riches en sel et en potassium, qui sont finalement de l'eau avec un peu de sel dedans et qui vont rétablir là cette perte de sels minéraux. Ça peut arriver aussi lorsqu'on s'entraîne et qu'on transpire abondamment. Après ce genre d'entraînement-là et même pendant l'entraînement, on peut aussi boire des liquides qui contiennent des sels minéraux. Alors, les meilleurs liquides qu'on peut boire à ce moment-là, ce seraient les boissons pour sportifs qui vont rétablir là, un bon apport en sels minéraux.
Donc, ces boissons-là ont une utilité réelle qui va au-delà de l'apport en eau?
Ah oui, absolument. Ces boissons-là sont conçues pour vraiment optimiser le niveau d'hydratation chez les athlètes, par exemple. Donc, elles ont de l'eau, mais en plus, elles ont un peu de sucre et elles ont des sels minéraux, par exemple le sodium et le potassium. Il y a aussi, lorsqu'on a des fortes chaleurs comme cette semaine, par exemple, donc on a des températures très, très humides, on transpire davantage, on pourrait à la rigueur là boire ces boissons-là, mais je vous dirais que le plus approprié, ce serait encore de l'eau.
Merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.
Yannick Tremblay interviewait Marie-Josée Leblanc du Centre Extenso. Si vous avez des questions de science, vous pouvez nous les poser par téléphone. De la région de Montréal, vous faites le 514-597-6166. D'ailleurs, au pays, sans frais, le 1-800-752-9050. Il y a toujours le courriel lumière@radio-canada.ca. La chronique des années-lumière avec Yves Gingras cette semaine. Bonjour Yves.
Bonjour Yannick.
Yves, professeur à l'Université du Québec à Montréal. Yves, on va parler d'une affaire qui secoue l'opinion publique au Québec cet automne, en tout cas l'affaire des gaz de schiste. Et au cœur de cette tourmente, de cette question-là, il y a le problème des relations entre la science, l'expertise scientifique et technique et les citoyens. Ça a évolué beaucoup, ces relations-là, Yves.
Oui, parce que lorsqu'on regarde le débat actuel, on oublie de voir que derrière ces débats-là, il y a effectivement, comme vous l'avez dit, la question des relations entre la science, l'expertise et les citoyens. Et ce triangle-là, au fond, se résume en un mot qui est devenu très à la mode, le mot « transparence ». Qu'est-ce que ça veut dire? Pour le comprendre, je pense que ça vaut la peine de remonter, disons, à la Deuxième Guerre mondiale.
De faire
mondiale.
Un peu d'histoire, comme d'habitude.
Oui, toujours un peu, hein? Oui. Et donc, de se dire, quel était en gros le contrat entre la science, entre guillemets, là, et la société? On peut dire que dans la période 45-75, les fameuses 30 glorieuses, mm-hmm. il y avait une très forte confiance, une idéologie du progrès qui fait que la science... C'est bon, c'est la science qui va résoudre nos problèmes. Les scientifiques sont relativement indépendants. Ils travaillent dans
des... neutres, ils sont
bons. Oui, ils travaillent dans les universités, ils sont bons. Donc, on leur fait confiance. Donc, lorsqu'il y a une nouvelle technologie, on va commander un rapport scientifique qu'on va faire évaluer par les pairs. Et donc, on va se dire, écoutez, c'est ce que la science conclut. Et en gros, hein, il y a des exceptions.
On a la vérité.
On est content, puis il n'y a pas d'émeute dans les rues. À partir de 1975, dans un contexte qu'on se rappellera, par exemple, de l'incident du réacteur nucléaire de Three Mile Island...
Aux États-Unis,
qui là, nous rappelle que bon, les scientifiques disaient que le nucléaire, c'est pas si dangereux que ça. Et là, au fond, il y a un réacteur qui est en train de fondre aux États-Unis. Oui. Assez surréaliste comme exemple.
Oui.
86, ou dans ces eaux-là, l'explosion de Tchernobyl.
Oui.
Sans compter les produits chimiques, les dangers. Donc, fin des années 70, critique beaucoup de la science. Donc, on dirait le point de départ était le fameux livre de Rachel Carson, le Silent Spring, donc le printemps silencieux, qui nous disait qu'avec les produits chimiques, on n'entendrait plus chanter les oiseaux, que c'était très, très bien comme image. Mmh. 1964. Hein,
oui.
Mais ça prend du temps à se développer. Donc, fin des années 70. Et au Québec, ça, il y a une très belle institution qui marque ce tournant-là d'une relation qui va changer. C'est la création du Bureau d'audience publique pour l'environnement, créé en 1978. Donc, voyez-vous, fin des années 70. Pourquoi? Pour maintenant amener et les experts et les décideurs et les citoyens à discuter en public, bureau d'audience publique, sur les choix technologiques.
Et ça, c'est vraiment nouveau. C'est un changement de façon de voir la science et la technique.
Totalement, parce que ça veut dire qu'on ne fait plus confiance totalement aux experts, mais on donne la parole aux citoyens qui disent « Oui, c'est bien beau cette affaire-là, mais est-ce qu'on a besoin de cette chose-là? » Donc, il y a un dialogue maintenant à trois acteurs. Hein, la science, la technologie qu'on peut mettre comme sous-ensemble, les décideurs gouvernementaux, mais les citoyens qui se disent « La science a beau être vraie, est-ce que moi j'ai besoin de ça dans ma cour? »
Mais aussi les citoyens disent « Je suis d'une certaine façon moi-même un expert. » Il y a ça aussi qui va changer.
Et ça, ce qui est nouveau, c'est qu'effectivement, aussi, depuis en gros même la fin des années 70, puis c'est un grand courant à long terme, il ne faut pas oublier qu'il y a une élévation énorme du niveau d'éducation. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus éduqués, beaucoup plus informés qu'en 1945-1950. Ils ont aussi, depuis au moins la fin des années 70, beaucoup moins confiance, à tort ou à raison, mais c'est un fait, beaucoup moins confiance aux décideurs qui sont pris dans des scandales dans tous les pays, on pourra donner des exemples.
Oui.
Et aussi, ils peuvent s'informer beaucoup mieux. On prend toujours l'exemple du web, mais effectivement, si vous allez sur le web et vous faites
là, on est déjà
extraction...
dans les années 90 à peu près.
Oui,
oui
et
mais...
donc ça vient s'ajouter à ces courants-là qui, depuis la fin des années 70, demandent au gouvernement des informations. Et exemple, la loi d'accès à l'information. C'est aussi une loi qui s'est développée dans la plupart des pays aussi et qui nous permet de dire le gouvernement a un rapport soi-disant confidentiel qui lui a permis de développer une nouvelle législation ou un nouveau règlement, je veux, moi, citoyen, lire ce document-là pour me faire ma propre tête. Pourquoi? Parce que j'ai plus d'éducation, je peux lire, et si je ne comprends pas, je pourrais aller chercher l'information sur le web ou auprès d'autres scientifiques. Mm-hmm. Donc, les gens se sentent beaucoup plus à même d'intervenir, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est frappé par l'intervention de beaucoup de groupes de pression, parce que ça demeure des groupes de pression. On peut être pour la tarte aux pommes, mais le groupe qui défend la tarte aux pommes s'oppose à celui qui défend la tarte au bleuet. C'est inévitable, mais ils ont chacun leur expert, chacun leur expertise. Ils ne font plus confiance, les yeux fermés, aux rapports soi-disant évalués par les pairs.
Exactement. Alors donc, à partir de ça, changement de relation entre la science, l'expertise et les citoyens, et ça explique un peu une situation comme cette affaire des gaz de schiste qu'on vit ici au Québec, mais aussi aux États-Unis.
Oui, et aux États-Unis, bien sûr, ça a commencé plusieurs années avant. Il est très intéressant, par exemple, de constater qu'en 2004 environ, le Environment Protection Agency, qui est la grande agence de la protection de l'environnement aux États-Unis, avait fait une étude en 2004 sur l'impact sur l'eau potable de l'extraction des gaz de schiste, mais qui vient d'annoncer là, en 2010 qu'elle va faire maintenant une étude beaucoup plus large sur tous les aspects de l'extraction. Et ça, ça rend nerveux aux États-Unis, actuellement, l'industrie gazière et pétrolière, ce qui est très intéressant, parce que pourquoi être nerveux d'une étude qui va faire le tour des aspects scientifiques et techniques? Donc, déjà, on voit un problème. C'est que vous êtes contre, a priori, une étude dont le seul but est de faire une étude d'impact scientifique et technique, pas social ou économique. L'état des lieux. Qu'est-ce qu'on connaît? Qu'est-ce qu'on ignore? Ce qui pose la question, si on transpose au Québec, on a vu tout récemment, c'est ça qui m'a amené à cette idée-là, le ministre responsable, je crois, de l'Environnement lui-même disait qu'au Québec, on a peu d'informations internes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, l'information scientifique, elle vient d'où? D'un côté, on a des universités, et si on pense toujours à l'exemple, on pourrait les multiplier, de l'extraction des gaz de schiste, il y a plein de sciences dans ça. On utilise des pressions. Il y a donc l'action de la mécanique des sols. On a beaucoup de produits chimiques, et donc ça relève de la chimie.
L'impact
donc,
sur les eaux.
L'impact sur les eaux, donc l'hydrologie souterraine, la stabilité des sols, la géologie. Donc,
etc. Beaucoup de sujets de science.
Et donc, plusieurs savants, plusieurs professeurs d'université aujourd'hui seraient capables, minimalement, de nous dire qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on ne connaît pas. Au lieu de dire « je suis pour ou je suis contre », la science va dire « écoutez, avant d'être pour et contre, voici ce qu'on connaît, voici les zones d'ignorance ». Il est frappant de constater que dans le débat actuel, on a très peu ces informations-là, et ça cache aussi une autre chose. L'implication sociale des scientifiques est relativement limitée, et les gens sous-utilisent leur expertise. Je suis certain qu'il y a des gens au Québec, dans les universités aujourd'hui, qui peuvent nous dire, de façon indépendante, non pas sous contrat d'une industrie pétrolière ou gazière, mais de façon indépendante, voici l'état des choses. Sans se dire c'est pour ou contre les OGM, tu peux dire comment ça marche et ça sera une étape première. L'autre chose, c'est l'EBAP, qui avait justement cette fonction-là.
Le bureau d'accès d'audience publique
l'audience
sur l'environnement.
Sur l'environnement, on constate peut-être depuis quelques années qu'au lieu de lui donner du pouvoir de plus en plus pour justement cette fameuse transparence. Vous avez entendu au cours des dernières semaines le mot « transparence » régulièrement. Oui, on va être transparent dans la politique des mines. Oui, on va être transparent dans la politique gazière. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être transparent? Ça devrait vouloir dire donner sur le web tous les documents à contenu scientifique et technique, et les gens pourront aller et les lire ou se les faire expliquer par d'autres scientifiques qui pourront eux aussi les lire sans avoir à prendre 8 mois à 10 mois à demander par la loi d'accès à l'information, accès à ces informations-là. Donc, on voit que sur un problème très actuel, on ne parle pas d'une chose qui est cruciale. Donner les moyens aux gens d'avoir de l'information scientifique et technique à l'heure, en insistant non pas sur ce qu'on connaît, mais sur ce qu'on ne connaît pas.
Yves Gingras, je vous remercie beaucoup.
Ça fait plaisir.
Et voilà, c'est la fin de la première heure des Années Lumière. À venir en deuxième heure, donc après les nouvelles, le premier grand volet de notre dossier sur le gaz de schiste. On est allé voir les scientifiques qui savent, qui connaissent la question, comme vient de le demander Yves Gingras. Les années-lumière, deuxième heure. Bonjour, Yannick Villieu, toujours à l'équipe, pour vous présenter le magazine d'actualité de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Alors, on consacre la majeure partie de cette deuxième heure au dossier gaz de schiste et c'est Chantal Srivastava qui va nous le présenter cette semaine. Les deux autres volets suivront au cours des deux prochaines semaines. Et pour terminer l'émission, je vais recevoir l'auteur de la semaine. Il s'agit du cancérologue David Kaya qui a publié « Le vrai régime anti-cancer » aux éditions Odile Jacob. Les gaz de schiste ont beaucoup fait parler encore cette semaine, alors que des entrepreneurs sont déjà à sonder le sous-sol dans la vallée du Saint-Laurent. Afin de rassurer la population, on le sait, le gouvernement du Québec a annoncé la tenue d'audience du Bureau d'audience publique sur l'environnement. En parallèle, l'industrie du gaz s'est lancée dans ce qu'elle appelle une campagne d'information. Comment la science peut-elle nous aider à mieux comprendre ce dont on parle et aussi à mieux saisir les enjeux? C'est ce que nous vous expliquerons aujourd'hui et au cours des deux semaines qui viennent. Alors, on va vous présenter donc un dossier en trois volets où il sera question de technologie, d'environnement, bien sûr. Mais aujourd'hui, on commence au tout début. On fait le béaba des gaz de schiste en compagnie de Chantal Srivastava qui est allée cette semaine à Québec rencontrer Denis Lavoie, géologue à la Commission géologique du Canada. C'est un spécialiste des réserves d'hydrocarbures dans l'est du pays.
Je suis venue vous voir, M. Lavoie, parce que je veux retourner à la base, voir un peu, voir des roches, vous en avez ici des spécimens, et voir aussi savoir de quoi on parle quand on parle de schiste.
OK. Il faut voir que nous, les gens qui travaillent en géologie, sont un petit peu chatouilleux quant à l'utilisation du terme schiste. Pour la majorité d'entre nous, le terme schiste réfère à une roche métamorphique, le genre de roche qu'on retrouve, par exemple, dans le bouclier canadien. Donc, c'est des roches qui n'ont aucun potentiel pour générer du gaz naturel.
Par opposition à des roches sédimentaires.
Par opposition aux roches sédimentaires pour lesquelles on utilise, nous, le terme « shale », qui est le terme qui est consacré par les géologues pétroliers dans l'Est canadien pour décrire ce genre de roche à grains très fins qui contient donc des réserves de gaz naturel qui sont présentement le sujet de beaucoup de discussions.
Le problème avec shale, c'est que c'est un mot aussi en anglais, donc on vous accuse d'anglicisme, d'où l'utilisation de schiste.
Et voilà, c'est tout à fait le point. Donc, shale est directement un terme qui est emprunté à la terminologie géologique anglophone. Et certains gens préfèrent utiliser le mot schiste qui, pour nous, malheureusement, veut dire quelque chose de complètement différent.
Mais les Français en ont décidé autrement.
Et voilà.
Alors, revenons à nos moutons, plutôt à nos roches. Vous avez ici des spécimens, M. Lavoie, de schiste, shale, bref, de cette roche dont on parle beaucoup présentement.
Exactement. Donc, ici, on a quelques échantillons de cette unité qui est le sujet de beaucoup de discussions actuellement. Donc, ce qu'on appelle les shales de l'Utica. Donc, une roche, comme vous voyez, une roche à grains très fin. On ne voit pas de particules. C'est très foncé.
Ça ressemble à de l'ardoise.
Effectivement, l'ardoise est le produit. Si ce genre de roche-là serait amené à des conditions de pression, de température excessivement élevées, on en ferait une roche métamorphique et cette roche serait appelée une ardoise, effectivement, oui.
Alors, cette roche-là, c'est une fine lamelle, donc, à peine quelques millimètres d'épaisseur, gris foncé. Qu'est-ce qui se passe si on la casse?
Donc, si on casse cette roche, vous allez voir, là, c'est... Je D'accord, c'est en la sentant, on sent immédiatement une odeur d'hydrocarbures de condense. Donc, ce que je viens de faire en cassant la roche, c'est une expérience à échelle très réduite d'une fracturation artificielle, comme certaines compagnies le font en grande profondeur. Donc, en fracturant ce fragment de shell de Létika ici, j'ai libéré une certaine quantité de gaz naturel qui est trappé naturellement à l'intérieur de cet échantillon.
Ça sent vraiment à un point tel que si j'allumais une allumette, il se passerait quoi?
C'est pas assez concentré à ce niveau-là.
Ce qu'on a vu cette semaine, ces images de gens qui allument l'eau du robinet, là, on pourrait pas allumer la roche?
Non, pas ici. Mais au Nouveau-Brunswick, c'est l'échelle de la formation d'Albert, sont beaucoup plus riches en matière organique que l'échelle de l'Utica. Et effectivement, il est possible de les allumer, de mettre le feu à la roche. Donc, tout va dépendre donc des teneurs en matière organique préservées dans l'échantillon rocheux. Et l'Utica est une roche qui contient beaucoup de gaz naturel, mais quand même pas assez pour qu'il prenne feu naturellement, disons.
Alors, ce gaz, il est arrivé comment dans cette roche? Cette roche date de quand? Et comment le gaz s'y est inséré vraiment très, très finement? Là, parce que ça a l'air assez dense.
Exactement,
quand on la voit. C'est
oui.
Pas une roche très poreuse.
Non, il n'y a pas de porosité. En fait, tout le monde, il n'y a pas de porosité visible dans cette roche. On sait qu'il y a de la microporosité excessivement fine que l'on peut voir au microscope électronique à balayage. L'échelle de Tika, c'est une unité sédimentaire à grains très fins qui s'est déposée à une époque géologique que l'on appelle l'ordovicien supérieur, c'est-à-dire il y a tout près de 450 millions d'années. Donc, ce sont des roches excessivement vieilles qui se sont déposées dans la région actuellement connu comme les basses terres du Saint-Laurent.
Mais à l'époque, c'était tout autre chose?
À l'époque, c'était complètement différent. On était à ce moment-là dans le continent nord-américain, à ce moment, était dans la zone tropicale. Donc, il faut voir qu'à ce moment-là, ce sédiment, c'est une boue qui se déposait dans un bassin océanique relativement profond. Et dans ce bassin océanique s'accumulaient également de grandes quantités de matière organique, c'est-à-dire des fossiles qui vivaient dans le milieu marin à l'époque. À leur mort, se sont accumulés sur le plancher marin, se sont accumulés et mélangés à cette boue, et avec le temps, avec l'enfouissement progressif de ce sédiment, le sédiment s'est transformé en roche et la matière organique, par la suite, par augmentation de température, elle-même s'est transformée. Donc, une matière organique est composée de lipides, de glucides, de protéines, et ce sont différentes chaînes organiques de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote, etc. Et l'augmentation de la température a pour effet de briser les liens chimiques dans ces différents constituants organiques. Donc, progressivement, on va briser ces longues chaînes organiques pour former des chaînes carbone-hydrogène de plus en plus courtes. Ainsi, on va former initialement, à partir de cette matière organique, du pétrole, qui est une chaîne organique relativement longue de carbone-hydrogène avec du soufre, de l'azote et autres impuretés. Avec l'augmentation de température, encore une fois, donc en amenant ces successions à de plus en plus grandes profondeurs, on va continuer de briser ces chaînes carbone-hydrogène pour former des chaînes beaucoup plus courtes. Et c'est ainsi qu'on va former le gaz naturel. Donc, le produit ultime de cette dégradation des chaînes organiques, c'est le méthane, qui est la chaîne organique d'hydrocarbures la plus simple, qui est un atome de carbone entouré de 4 atomes d'hydrogène, donc du CH4, qui est le produit donc ultime par la dégradation thermique de la matière organique. Et c'est ce méthane que l'on retrouve dans l'échelle de l'Utica.
Alors, dans cette roche-là, on a du gaz, mais ce n'est pas du gaz conventionnel, comme on l'appelle, ce n'est pas du gaz classique, c'est du gaz naturel non conventionnel, c'est ça?
Exactement. Donc, il faut voir que dans le monde des hydrocarbures, il y a 2 grands champs d'accumulation d'hydrocarbures connus. Il y a ce qu'on appelle les hydrocarbures conventionnels. Le système comme tel est constitué de roches à partir desquelles les hydrocarbures ont été produits, mais les hydrocarbures ont été expulsés de cette roche par pression, se sont déplacés vers des roches poreuses, des roches avec des trous, où ils se sont accumulés pour former des réservoirs conventionnels. Dans le cas qui nous intéresse ici, l'échelle de l'Utica, c'est ce qu'on appelle un système non conventionnel, c'est-à-dire que l'Utica a généré du gaz naturel, mais une bonne partie de ce gaz naturel est restée trappée, restée emmagasinée dans l'Utica, n'a pas été expulsée. Donc, c'est ce qu'on appelle les systèmes non conventionnels, là où la roche-mère d'hydrocarbures forme le réservoir également. Donc, c'est ce qu'on appelle les systèmes non conventionnels. Et l'Utica est un exemple de ces nombreux systèmes non conventionnels qui sont maintenant explorés sur tout le continent nord-américain.
Pas seulement dans du schiste, donc, si j'entends bien ce que vous dites, dans tout type de roche qui n'est pas assez poreuse pour laisser circuler, on a ce type de gaz potentiellement.
Exactement. Donc, une roche dans laquelle la circulation, le mouvement du gaz est limité par la faible pourcentage de porosité, de perméabilité, de trous connectés dans la roche forment ce qu'on appelle les systèmes non conventionnels.
Alors, regardons plus précisément l'Utica. Vous avez une carte ici, Monsieur Lavoie. Ça va de où à où? C'est à quelle profondeur par rapport à la surface et c'est à quelle étendue?
OK. Donc, l'Utica en surface est connue de la région de Québec, de la ville de Québec, et même quelques kilomètres en s'en allant vers l'île d'Orléans, jusqu'approximativement à Montréal. Donc, sur toute la rive nord du fleuve Saint-Laurent, il est possible d'examiner des affleurements de cette formation que sont les shales de l'Utica. L'extension en profondeur de cette unité est basée sur les travaux de sismique réflexion, c'est-à-dire par émission d'ondes sonores et de réflexion des différents types lithologiques. En profondeur, on est capable d'imager la sous-surface et on est capable de localiser où se situe l'échelle de l'Utica en sous-surface.
Comment, concrètement, on fait ça comment? On circule puis on envoie des ondes?
C'est ça, c'est des camions qu'on appelle des vibro-size. Ce sont des gros camions qui vont générer des vibrations dans le sol et ces vibrations vont donc, ces ondes sonores vont se promener à différentes vitesses dans le sous-bassement rocheux en fonction de la nature des roches et vont être réfléchis vers la surface en fonction de l'inclinaison des plans d'orientation de ces successions rocheuses. Donc, on obtient ici une image de la géométrie et de l'architecture du sous-sol dans la région étudiée par ces levées. Donc, il est possible donc de savoir, en utilisant ces approches, où est situé l'Utica en profondeur, quelle est son épaisseur et sur dans quel domaine est-ce qu'on est capable de savoir qu'il est présent. Et ces données de sous-surface nous indiquent que l'Utica est présent non seulement partout au Québec, à différentes profondeurs.
La rive nord, la rive sud, Saint-Laurent, les deux.
La rive sud, il s'étend aux États-Unis. L'Utica est connu dans l'État de New York. Et l'Utica également, ou une unité d'âge équivalent, que l'on n'appelle pas Utica, qu'on appelle la formation de Makassi, est présent sur l'île d'Anticosti. C'est exactement le même type de roche que l'Utica du sud du Québec. On lui donne un nom différent parce qu'il y a des géologues qui ont travaillé dans cette région. Et on est capable de tracer cet Utica du sud du Québec jusqu'à l'île d'Anticosti. La profondeur à laquelle se trouve cette unité rocheuse varie beaucoup. Évidemment, lorsqu'on est dans le Bas-Saint-Laurent, toutes les Appalaches sont présentes au-dessus de l'Utica. Donc, l'Utica est à beaucoup plus grande profondeur. Et donc, la profondeur à laquelle l'Utica est retrouvée varie selon la région où on se situe au Québec. Donc, dans le sud du Québec, il est relativement près de la surface, à 1 km, 2, 3 km. Tout dépendant où on est, et en se dirigeant vers Anticosti, il redevient peu profond. Et entre Anticosti et la ville de Québec, l'Utica est à beaucoup plus grande profondeur.
Qui peut aller jusqu'à?
Ça peut être de l'ordre de 4, 5, 6 kilomètres même.
Et près de Montréal, donc pour le reste dans la vallée, on a des zones là où on voit certains petits points. C'est qu'on a fait des tests?
C'est des séries de forages qui ont été faits par l'industrie pendant de nombreuses années. Il faut voir que l'exploration pour les hydrocarbures conventionnels au Québec remonte dans les années 1960, où à l'époque, certaines compagnies pétrolières et même la Société québécoise d'initiative pétrolière, la SOQIP, ont fait des forages afin d'aller tester en profondeur les réservoirs, la présence de réservoirs hydrocarbures conventionnels. Certains réservoirs ont été trouvés, entre autres à Saint-Flavien, où il y a eu production de gaz naturel pendant tout près d'une quinzaine d'années. Mais l'ensemble de ces forages, il y en a eu tout près de 200-250, a permis donc d'ajouter un autre élément à notre banque de données concernant l'Utica. Donc, en utilisant ces forages, on sait également donc localement à quelle profondeur se situe cette formation rocheuse.
Est-ce qu'on a une idée de combien de temps ça va durer la source de gaz?
Oui.
Quand est-ce qu'elle va se tarir?
Évidemment, donc, dans le cas de l'Utica, les travaux sont relativement récents. Pour l'instant, de ce qu'on en sait, l'Utica n'est pas différent des autres réservoirs de gaz non conventionnels. Donc, il y a rapidement des productions énormes de gaz naturel. Mais ces productions énormes vont rapidement décliner pour atteindre un plateau de production continue, cependant, mais à un niveau inférieur, mais continue pendant de nombreuses années. Des champs similaires aux États-Unis, par exemple, vont produire pendant 10 à 15 ans à partir d'un de ces forages qu'il faut parfois restimuler pour réinitier une remontée de la production.
Comment on fait ça, restimuler?
C'est de faire une nouvelle fracturation. Donc, de réinjecter encore une fois sous haute pression cette eau avec les petits grains de sable qui vont maintenir les micro-fractures ouvertes pour permettre encore une fois, vont créer de nouveaux chemins de migration.
On veut rendre la roche plus poreuse à nouveau, c'est ça?
C'est ça. Le but de la fracturation, c'est effectivement créer une porosité artificielle à l'intérieur de la roche, puisque, comme vous le voyez sur les échantillons, c'est une roche dans laquelle on ne voit pas de trou. Donc, il faut vraiment créer cette porosité, ces chemins de migration, d'échappement du gaz naturel de façon artificielle.
Et donc, 10-15 ans, on réactive, mais il n'y a pas de garantie, là, on ne sait pas.
Il n'y a jamais de garantie. Il faut voir que c'est un champ qui est relativement nouveau, donc beaucoup reste à apprendre encore quant à la longévité des forages individuels. Et c'est des données qui vont s'acquérir comme dans les autres champs de gaz naturels non conventionnels avec le temps. Il n'y a pas de données au niveau géosciences publiques, j'entends au niveau gouvernemental. Nous avons des évaluations, nous avons d'ailleurs fait récemment une évaluation du potentiel hydrocarbure conventionnel dans l'Est canadien. Ces évaluations se font à l'aide de logiciels dans lesquels on entre différents paramètres géologiques, soit d'épaisseur des réservoirs, le pourcentage de trous ou de porosité à l'intérieur de la roche, la teneur en eau dans la porosité, etc., ce qui nous permet de générer à la toute fin un volume d'hydrocarbures présents dans ces réservoirs conventionnels. Ce type de logiciel ne s'utilise pas pour les réservoirs non conventionnels. Il existe cependant des façons pour évaluer le volume total de gaz en place à l'intérieur des chilles de l'Utica. C'est tout simplement d'avoir une idée du volume de cette succession rocheuse, donc de son épaisseur et de la superficie qu'elle couvre, en sachant quelle est la teneur en gaz à l'intérieur des différentes unités qui ont été testées ou les différentes carottes qui ont été testées, il est possible d'en arriver à des estimations volumétriques du contenu en gaz naturel en place dans l'Utica. Il faut voir que ces valeurs qui sont produites ou qui ont été diffusées par l'industrie suggèrent des potentiels de gaz en place énormes. C'est des ordres de grandeur supérieurs à tout ce qui est connu au niveau conventionnel à l'échelle canadienne. Cependant, tout ce gaz n'est pas récupérable. Seulement une partie relativement peu élevée de ce gaz peut être récupérée par les techniques actuelles de production.
On dit quoi? Aux alentours de quoi? 20%?
En moyenne, c'est de 20 à 25%, quoique présentement, justement, dans ces shales de Barnett aux États-Unis, il y a certaines compagnies qui réussissent à extraire tout près de 50 % de la ressource. Donc, en augmentant la densité de forages horizontaux et en raffinant la composition des fluides de fracturation pour optimiser la production de gaz à partir d'un intervalle qui est stimulé. Donc, c'est en général 20 à 25 %, mais localement, il y a des valeurs qui montent où une partie de l'industrie a atteint des taux de récupération jusqu'à 50 %.
Et donc, les données, ce sont des données du secteur privé. Il n'y a pas de données publiques là-dessus.
Pour l'instant, nous n'avons pas de données publiques, effectivement.
Est-ce qu'on va en avoir un jour où il va falloir se fier à la science, aux relevés qui proviennent de l'industrie?
Il y a présentement différents projets de recherche menés par différentes organisations afin de développer ces outils d'estimation volumétrique de teneur en gaz en place dans les successions de gaz non conventionnels. Dans peu de temps, il y a des symposiums ou des conférences qui sont actuellement planifiées où les récents développements quant à cette avenue de recherche seront présentés. Mais oui, dans sous peu, on aura ces outils pour faire nos propres évaluations. Oui.
Parce que tous les géologues comme vous qui travaillent pour une autorité gouvernementale doivent se contenter de croire ce que dit l'industrie. C'est inconfortable un peu.
C'est inconfortable jusqu'à une certaine mesure parce qu'on peut quand même contrôler personnellement les paramètres qu'ils utilisent afin d'en arriver à ces estimés. Donc, dans beaucoup de cas, entre autres, leurs estimés d'épaisseur et de surface couverte par l'Utica, entre autres, sont basés sur nos propres données. Donc, on se fie quand même bien à nos propres données. Évidemment, eux, ils greffent ou ils rajoutent leurs propres études, soit de teneur de gaz en place dans la porosité, de gaz absorbé afin d'en arriver à des estimés volumétriques à la fin. Mais une certaine partie des paramètres sont effectivement quand même bien contrôlés. Oui.
Ben écoutez, je vous remercie beaucoup, M. Lavoie. Merci.
Ben, ça me fait plaisir énormément.
Mmh.
Alors, c'était donc le géologue Denis Lavoie. Il travaille à la Commission géologique du Canada. Et Chantal, vous êtes allé le rencontrer cette semaine dans son bureau à Québec. Alors, vous avez beaucoup parlé de ce gaz de schiste de l'Utica au Québec, mais il y a aussi d'autres gisements ailleurs au pays dont certains sont même déjà en exploitation.
Entre autres, Horn River en Colombie-Britannique, où on exploite cette ressource depuis quelques années déjà, et même que le gouvernement là-bas a empoché plusieurs milliards de dollars en vendant aux enchères, Yannick, les droits d'exploitation. Un exemple dont on pourrait s'inspirer ici au Québec, me disait Un exemple dont on pourrait s'inspirer ici au Québec, me disait cette semaine Normand Mousseau, professeur de physique à l'Université de Montréal. Monsieur Mousseau a publié récemment deux ouvrages sur les enjeux énergétiques et il n'est pas surpris qu'on se tourne de plus en plus vers ce type d'hydrocarbures non conventionnels comme les gaz de schiste, mais il croit néanmoins qu'on doit prendre le temps de s'interroger avant de plonger.
Pour moi, il y a trois questions. La première question, c'est environnementale. Comment est-ce qu'on va développer ça de manière propre? Deuxièmement, il y a la question politique. Qui doit développer ça? Qui doit contrôler le développement? Et qui doit posséder les outils? Et troisièmement, la question économique. Comment doit-on s'assurer que tous les citoyens, aujourd'hui et dans le futur, parce que ce sont des ressources non renouvelables, vont être capables de bénéficier au maximum de cette industrie-là naissante si profit y a à faire? On ne connaît pas encore tous les tenants et aboutissants, même pour les gens qui travaillent dans le milieu, parce que c'est une nouvelle technologie, ce sont des nouveaux gisements qu'on explore, donc il y a beaucoup d'inconnus. Ce qu'on sait, c'est que ce gaz-là est présent en quantité très, très grande en Amérique du Nord, ce qui va bouleverser la donne au niveau de la production du gaz naturel. On sait aussi que ce gaz-là est présent dans des territoires qui n'ont pas une grande expérience d'exploration et d'exploitation de gaz et de pétrole, comme par exemple le Québec. Et ça implique donc que les gouvernements doivent se familiariser avec pas seulement le gaz de shale, mais aussi tout le régime de production pétrole et gaz qui est très différent des autres régimes de production minière, par exemple.
Alors, gaz de shale, gaz de schiste, on y revient toujours, Chantal. Alors, donc, c'était le physicien Normand Mousseau qui soulève plusieurs questions, effectivement. Mais Chantal, est-ce qu'on a vraiment, ça, c'est l'autre grande question, est-ce qu'on a besoin de ce gaz de schiste-là?
La maintenant? Question se pose oui. assez souvent par les temps qui courent. Et pour en savoir davantage, j'ai consulté un spécialiste en la matière. Il s'agit de Gaëtan Lafrance, qui est un spécialiste des prévisions énergétiques. Il est professeur honoraire à l'Institut national de la recherche scientifique. Il est ingénieur de formation et a noté que M. Lafrance est un des rares experts dans ce domaine et qu'il fait même partie de l'équipe spéciale sur le développement des nouvelles énergies vertes et renouvelables qui a été mis sur pied par le gouvernement du Québec il y a un peu plus d'un an et qui doit remettre ces jours-ci son rapport. Mais on l'écoute nous parler donc de son point de vue sur les gaz de schiste.
Les gaz de schiste, bien, c'est un bon indice, ce qui montre très bien qu'actuellement, l'industrie du gaz se retourne vers des technologies plus difficiles à mettre en production, moins acceptables de la part de la population, qui demandent des règlements plus sévères. Vous savez, on est loin des grosses bulles de gaz là, qui duraient 20 ans ou plus. Maintenant, on s'en va donc vers les technologies qui sont de plus en plus... qu'on met en production pour des courtes périodes de temps. Donc, vous voyez un petit peu la problématique, là.
Et donc, qui sont plus complexes à mettre en œuvre, mais qu'on se donne la peine de mettre en œuvre parce que quelque part, ça vaut la peine, justement.
Bien, parce que c'est toujours pareil. C'est qu'il y a une demande pour le gaz naturel et dans certains secteurs, comme le secteur industriel, bien, c'est relativement captif. Pour les hautes températures, pour les procédés de réduction, par exemple en sidérurgie, le gaz naturel est un combustible qui a beaucoup de valeur, qui a une valeur ajoutée par rapport à d'autres combustibles.
Pourquoi?
Bien, parce que c'est une chaîne de carbone qui est plus simple, hein, qui est plus propre. Il y a moins d'impuretés dedans.
CH4 ou...
Oui, ben, c'est toutes des chaînes de carbone et d'hydrogène. Donc, le gaz naturel a des propriétés qui sont plus avantageuses pour les procédés industriels en particulier.
Vous dites, Gaëtan Lafrance, que quand on est rendu à se donner tout ce trouble pour aller chercher des gaz de schiste profondément enfouis dans le roc, sous le sol, avec des techniques de fractionnement diverses, c'est parce qu'on est peut-être en train de se préparer à gérer la décroissance. Or, quand on nous présente cette filière-là, on nous dit qu'on a des ressources pour 100 ans, 150, voire 200 ans, si on exploite tout ce qu'on a ici, par exemple, dans les shales d'Utica.
Bon, là, il faut revenir aux définitions de ce que c'est quoi une réserve. Quand on parle de réserve prouvée dans le cas du pétrole, qui est de 40-45 ans, ou quand on parle de réserve au Québec pour 100 ans ou 150 ans, c'est au rythme de la consommation actuelle. Donc, dans le cas du gaz naturel, quand on dit au Québec que c'est à plus de 100 ans d'opportunités pour le Québec, c'est au rythme de notre consommation que nous, on a au Québec dans le secteur industriel et commercial.
Ça veut dire qu'on prend la consommation actuelle puis qu'on dit...
On la prolonge pour les 100 prochaines années sans qu'il y ait de croissance.
Et sans qu'il y ait d'exportation.
Et là, c'est l'autre paramètre. C'est que dans le cas du gaz naturel, l'industrie du gaz est déréglementée au niveau du continent nord-américain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'aura pas une politique pour dire que cette consommation-là sera seulement pour nous. Ça va être ouvert, donc, à l'échelle de l'Amérique du Nord. Et si demain matin, le prix triple, on comprendra qu'on voudra le vendre sur le marché étranger. Donc, c'est comme plus payant pour nous.
On ne va pas attendre 100 ans d'en avoir besoin exactement. Ici pour pouvoir...
Il y a Pierre Trudeau qui a lancé cette politique-là avec sa politique nationale de l'énergie. Mais par la suite, il y a peu de politiciens qui ont retenu ce genre de politique.
Donc, c'est un dossier, Gaëtan Lafrance, celui des gaz de schiste, où il faut aller au-delà des mots, des discours. Il y a des campagnes d'information, certains diraient de désinformation, pour nous vendre cette filière-là maintenant. Mais quand on regarde le portrait énergétique global, quelles sont les questions qu'on doit se poser pour voir si le moment est venu d'entrer dans ce type d'univers, avec tous les problèmes que ça peut causer, le mécontentement, les difficultés liées à l'environnement, les coûts pour certains bénéfices? Comment on fait pour mettre tout ce qu'il y a à mettre dans la balance et s'assurer qu'on fait bien le poids pour voir qu'est-ce qui est en jeu?
Bien, d'abord, c'est qu'il faut voir s'il y a une demande au Québec de long terme pour le gaz naturel. Moi, je pense que oui. Je pense qu'il est actuellement difficile de substituer plusieurs procédés industriels en faveur de l'électricité, ce que je souhaiterais. Hein. Je pense que c'est l'avenir de très, très long terme, c'est de passer à l'électricité. Notamment dans les procédés pour la sidérurgie, première transformation des métaux, ça m'apparaît difficile actuellement de penser qu'on pourrait substituer le gaz vers l'électricité, par exemple. Donc ça, c'est un premier paramètre. Il y a une demande au Québec pour un bon bout de temps. Deuxième paramètre, à mon avis, qu'il faut considérer, c'est qu'il est toujours mieux de produire sa source d'énergie près de la consommation. C'est une simple question d'efficacité. Par exemple, est-ce qu'on préférait avoir Rabaska et importer du gaz de Russie? Ou si c'est mieux de produire notre gaz naturel à nous, près des centres de consommation de Contrecoeur, par exemple, où on a beaucoup de sidérurgie, près des usines, autrement dit, pour l'utilisation au Québec. Donc, c'est un peu comme pour le kilomètre alimentaire, c'est-à-dire produire sa nourriture près de chez soi, c'est plus efficace, c'est plus écologique. C'est la même chose pour l'énergie. Donc, si on le fait correctement, le gaz de schiste, à mon avis, est intéressant pour le Québec de ce point de vue-là.
Par rapport aux énergies renouvelables, est-ce que ce type d'exploitation-là, on est à la phase d'exploration, en tout cas chez nous maintenant, puis on s'en va peut-être éventuellement vers l'exploitation, si l'industrie juge que c'est rentable, mais comment on fait pour comparer les investissements requis pour faire ce type d'exploitation versus ce que ça prendrait peut-être pour donner un coup de pouce à la filière des énergies renouvelables?
C'est toujours le problème, c'est qu'on ne compare jamais les technologies sur une même base. Par exemple, pour le payback ou
le retour sur l'investissement.
Le retour sur l'investissement, chaque lobby utilise ses paramètres à lui. Ça devient difficile, donc, de se faire une tête sur dire est-ce que c'est mieux d'investir dans cette technologie-là ou dans telle autre technologie. Par exemple, l'hydroélectricité, bon, on utilise un paramètre de temps de vie de 50 ans. Et c'est même plus.
Donc, quand on fait un projet, on voit 50 ans devant, grosso
c'est
modo.
Ça. Alors que pour un projet gazier, souvent, c'est 5-10 ans. Hein? Donc, on veut un retour sur l'investissement très rapidement. Donc, ce n'est pas une approche qui est comparable comme telle. Ce n'est pas évident de convertir toutes ces unités-là pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Convertir tous les facteurs d'utilisation, les rendements de chaque technologie. Donc, ça demande du travail et souvent, on n'a pas donc ce portrait global de que vaut une technologie d'un point de vue rentabilité par rapport à une autre. Quoi.
Dans le cas des gaz de schiste, on s'apprête à tenir des consultations pour voir un peu ce qu'il en est, peut-être baliser l'exploitation éventuellement. Est-ce qu'il y a une science qui se fait pour aller chercher de l'information et justement faire cette comparaison avec d'autres types d'investissements ou d'autres types de sources d'énergie renouvelable ou non?
Je ne sais pas si... Je pense que c'est le BAP. Hein? Je pense qu'on a suggéré que c'est le BAP qui fasse ça. Je ne connais pas bien tous les mécanismes du BAP. Je ne suis pas sûr qu'on va faire une analyse de ce type. Par contre, on va prendre d'autres paramètres. Hein. On va prendre des paramètres sociaux. On va comparer l'acceptabilité de cette filière-là par rapport à d'autres. On va voir la complexité d'une mise en production. Je pense que ça, on va le faire. Et c'est pas tous les coûts non plus. Hein. Je pense que dans chaque filière énergétique, le coût est un paramètre, mais tout le reste est aussi important.
Comme quoi, par exemple?
Ben, l'acceptabilité d'une filière, je dirais le préjugé positif en faveur d'une filière par rapport à une autre, c'est très important. La façon dont on la met en pratique, bon, l'éolien est un bon exemple. Hein. Moi, j'ai œuvré beaucoup pour promouvoir cette filière-là. Donc, ça, à un moment donné, tout le monde était d'accord avec l'éolien. À partir du moment où on l'a vu arriver, ben là, les gens étaient un petit peu moins d'accord. Donc, vous voyez, il y a de l'évolution aussi dans l'évaluation des dossiers qu'il faut considérer, quoi.
Le spécialiste en prévision énergétique Gaëtan Lafrance, donc il juge que l'industrie probablement a besoin de gaz naturel, peut-être même donc de gaz de schiste, même s'il aimerait bien qu'il en soit autrement, d'après ce qu'on comprend. Et ailleurs dans le monde, Chantal, comment est-ce qu'on aborde cette question-là, cette filière-là des gaz de schiste? Commençons un petit coup d'œil aux États-Unis d'abord.
Les États-Unis, entre autres, parce que c'est là que tout le monde regarde, Yannick, ils sont vraiment les pionniers en la matière et ont, au cours des deux dernières années, fait littéralement exploser ce secteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes actuellement dans ce qu'on peut comparer à une bulle gazière.
Oui.
Alors, il y a de plus en plus de gaz disponible sur le marché, à un point tel que dans son dernier rapport sur les énergies publié il y a quelques mois, l'Agence internationale de l'énergie évoquait même la possibilité d'une surabondance, imaginez, de gaz naturel d'ici quelques années.
Et ça pourrait s'expliquer par cette espèce d'explosion, d'essor de l'industrie des gaz de schiste aux États-Unis, ça?
Semble-t-il, parce que pour vous donner une idée, en 2008, le gaz de schiste et tous les autres gaz non conventionnels comptaient pour 50 % de la production gazière américaine, compte 12 % à l'échelle mondiale. Et l'an dernier, les États-Unis sont ainsi devenus le premier producteur mondial de gaz, devançant la Russie, ce qui n'est pas rien. Et en plus des gaz de schiste, cette grande catégorie dite des gaz non conventionnels, qui est en plein essor, englobe aussi, entre autres, ce qu'on appelle le gaz de houille, qui est en fait le grisou, méthane qui est piégé dans le charbon. La filière a donc globalement le vent dans les voiles. Et pour compléter ce bref tableau, je vous propose d'écouter Anne-Sophie Corbeau de l'Agence internationale de l'énergie à Paris. Elle est ingénieure et experte senior au secteur des gaz à l'agence.
L'exemple des États-Unis a vraiment attiré l'attention de nombreux pays. Non seulement les pays producteurs qui se disent, ma foi, voilà une très bonne ressource à exploiter. Donc des pays, par exemple, comme l'Australie. L'Australie, elle, s'intéresse davantage au gaz de houille et ils ont un certain nombre de projets qui sont actuellement à l'étude, mais aussi des pays comme l'Indonésie, voire des pays comme la Russie, qui a aussi d'importantes ressources en termes de gaz de houille, regardent donc cette ressource. Et puis des pays qui sont des pays importateurs, comme la Chine, l'Inde, l'Europe, regardent également ces nouvelles ressources. Le Canada aussi regarde avec intérêt naturellement ces nouvelles ressources de gaz, puisque ça pourra lui permettre en fait de pallier au déclin de ces ressources de gaz conventionnelles.
Est-ce qu'il y a des cadres juridiques qui ont été mis en place ou est-ce qu'il y a des modèles qui, par exemple, on parle beaucoup ici par les temps qui courent de nationaliser cette industrie émergente-là, cette filière énergétique. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait ailleurs dans le monde ou c'est toujours le secteur privé qui s'en occupe?
Alors, en fait, les compagnies qui ont développé le gaz non conventionnel, c'était essentiellement des petites compagnies ou des compagnies de taille moyenne. Naturellement, depuis, les grosses compagnies, Shell, Exxon, etc., se sont engouffrées dans la brèche. Et beaucoup de compagnies à l'échelle mondiale regardent maintenant avec beaucoup d'intérêt ces nouvelles ressources. Et on a en fait tout type de compagnies qui s'y intéressent. Il n'y a pas de différence en fait entre les compagnies privées et les compagnies nationales. Vous pouvez aussi bien avoir des compagnies comme Gazprom qui s'intéressent au gaz de houille, des compagnies
en Russie,
en Russie, les compagnies chinoises, CNPC, Sinopec, qui s'intéressent également au gaz de houille et au gaz de schiste. Donc l'intérêt est assez général.
Il y a donc un engouement planétaire. Est-ce que on risque de s'emballer et de perdre un peu le contrôle?
Effectivement, il y a besoin de davantage de puits de forage. Pour le moment, en fait, on en est, hormis l'Amérique du Nord, on en est plutôt au stade de l'exploration avant de regarder la production. Et là où c'est important, c'est justement qu'il y a quelques inquiétudes au niveau de l'impact éventuel sur l'environnement. Et donc, en fait, pour le moment, certaines personnes non seulement prévoient d'avoir davantage de législation, notamment aux États-Unis, où cette inquiétude est assez grande, notamment du côté de New York.
Et de la Pennsylvanie aussi.
Exactement. Donc, en fait, ce qui peut se passer aux États-Unis en termes de future législation aura sans doute un impact dans d'autres pays, en particulier des pays qui sont particulièrement attentifs à l'impact sur l'environnement, et je pense en particulier à l'Europe, où la densité de population est beaucoup plus importante, où en fait le passé aussi en termes de production est naturellement différent, et où il y a une très grande attention qui est portée à ce qui pourrait se passer si on a beaucoup de forage sur l'environnement en termes d'impact sur la population et en termes d'impact naturellement sur les ressources des nappes phréatiques.
Et chez vous en France, Madame Corbeau, est-ce qu'on parle de cette filière-là?
On en parle un petit peu, effectivement. On a un tout petit peu de production de gaz de houille et dans certaines régions, on commence à regarder la production de gaz de schiste. Mais pour le moment, c'est essentiellement à l'état d'exploration. Comme ça l'est d'ailleurs dans toute l'Europe.
Anne-Sophie Corbeau de l'Agence internationale de l'énergie à Paris. Alors la semaine prochaine, deuxième volet de notre grande série sur les gaz de schiste avec la technique des gaz de schiste. C'est Yannick Tremblay qui fera le reportage. Et Chantal, vous allez revenir par la suite pour traiter de l'impact sur l'environnement.
Dans deux semaines donc.
Merci beaucoup Chantal.
Je vous en prie.
Dominique Lapointe, le réalisateur des Années-Lumière. Je vous rappelle nos numéros de téléphone pour nous laisser vos questions de science. De Montréal, vous composez le 514-597-6166, 597-6166. De l'extérieur de la région métropolitaine, un numéro sans frais, le 1-800-752-9050, 752-9050. Et soyez patient, une bonne question trouve toujours une bonne réponse.
L'auteur de la semaine maintenant, il dirige le service de cancérologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il est aussi professeur à l'université Pierre et Marie Curie. Il vient de publier chez Odile Jacob un livre intitulé « Le vrai régime anti-cancer ». Il s'appelle David Kaya et il est dans notre studio de Paris. Bonjour docteur Kaya.
Bonjour.
Alors c'est un livre, dites-vous, hein, qui est la somme de 30 années de recherche en cancérologie, 30 années en fait de recherche, de lutte contre le cancer avec les patients. Mais vous dites aussi au début de votre livre, je vais vous citer, « Je me dois de constater que quelque chose aurait dû être fait depuis longtemps ou en tout cas développé davantage, la prévention. Est-ce que la prévention est pour vous une découverte, je dirais, tardive, sur le tard ?»
Mais vous savez, dans nos pays latins, la prévention n'a jamais été une priorité de santé. Le médecin a toujours été valorisé quand il guérissait quelqu'un, pas quand il évitait la maladie. Donc on n'a jamais développé ni valorisé à son juste niveau la santé publique et la prévention.
Et quand vous dites prévention, évidemment, dans le livre, avec le titre qu'on a, « Le vrai régime anti-cancer », vous parlez beaucoup d'alimentation. Bien sûr, bon, l'ennemi numéro un, on s'entend, c'est le tabac, 30% de tous les cancers. Mais vous dites aussi que l'alimentation, c'est 20% et peut-être même 30%. Si oui. On inclut des causes indirectes de tous les cancers, c'est considérable ça aussi.
C'est encore une fois, ce livre ne reprend que les études faites chez l'être humain, chez l'homme ou chez la femme. Il ne s'occupe pas des études qui ont été faites chez la souris ou chez l'animal, parce que là, ça fait longtemps qu'on sait guérir, éviter le cancer, et malheureusement, ça n'est pas aussi simple chez l'homme. Donc je n'ai répertorié que les études faites chez l'homme, et quand on regarde, l'alimentation chez l'être humain va jouer dans les grands cancers que sont le cancer du sein, le cancer de la prostate, le cancer du poumon, le cancer du côlon, de tout le tube digestif. Donc on sur des très grands cancers qui représentent près de 80% des cancers. Et dans ces cancers-là, par déduction, en réalité, on arrive à un chiffre de 20 à 30% qui serait dû à l'alimentation, puisqu'on va éliminer 30% liés au tabac, 30% liés aux hormones naturelles que vous sécrétez dans votre corps, la testostérone pour l'homme et les œstrogènes pour la femme, qui sont respectivement responsables des cancers de la prostate et des cancers du sein. Puis ensuite, ça vous fait déjà 60%. Ensuite, vous allez avoir à peu près 20% qui vont être liés aux virus, aux bactéries, comme le cancer du col de l'utérus ou du foie, aux rayons ultraviolets, comme les mélanomes malins, cancer de la peau, à la pollution, enfin, etc. Et à la génétique, 5%, l'hérédité pure. Mm-hmm. Et donc, il va nous rester une vingtaine de pourcents qu'on ne peut pas expliquer autrement que par l'alimentation.
Et ce que vous dites, c'est en même temps, gare aux conseils trop simples, même simplistes. L'alimentation, vous dites, c'est toujours compliqué. Il n'y a par exemple pas de régime universel.
Ben non, je mets en garde les lecteurs, justement, et c'est pour ça que j'ai appelé ça le vrai régime anti-cancer. Moi, depuis 30 ans que je soigne des malades, je n'arrête pas, et notamment ces dernières années, d'entendre des patients me disant « mais il faut que je mange des carottes, il faut plus que je mange des carottes, il faut que je prenne des laitages, il faut plus que je mange des laitages ». On entend tout et n'importe quoi. En réalité, s'il y avait une solution simple, d'abord tout le monde la connaîtrait et ce serait fait.
Par définition, mais,
oui, mais c'est pas ça, parce qu'on a tous le sentiment quand même, par le bon sens, que nous ne faisons pas tous la même chose de ce que nous mangeons. Si vous et moi, Yannick, nous allons manger la même chose, peut-être que vous, moi, je vais grossir et vous pas. Ou si nous mangeons un plat épicé, peut-être que vous allez le digérer, moi pas.
Exact.
De la même manière, nous n'allons pas tous avoir le même risque de cancer. Une femme sur 8 va développer un cancer du sein, un fumeur sur 6 va développer un cancer du poumon. Les autres ne le développent pas. Nous ne sommes pas non plus égaux face au risque de cancer. Pourquoi voulez-vous alors que nous soyons égaux face au risque qu'entraîne l'alimentation sur le cancer, alors que déjà les deux, nous ne sommes pas égaux.
Et vous dites aussi attention aux idées reçues. Alors, on va les prendre une par une. On va y aller d'abord avec le fameux poisson. Le poisson, dites-vous, ne protège pas du cancer, et même peut-être au contraire.
Ouais. Ça a été ma grande surprise quand j'ai commencé à travailler sur ce livre. J'ai commencé par le poisson parce que je me suis dit, bon, le poisson, moi je suis tranquille, ça va être bon. Mais pas du tout en réalité. Oui. D'abord, il a été dit comme ça que les poissons riches en oméga-3 étaient préventifs du cancer. Alors toutes les études chez l'homme ont démontré le contraire. Les oméga-3 ne protègent absolument pas du cancer chez l'homme. Oubliez ça, ça ne sert à rien. Deuxièmement, est-ce que le poisson c'est bon ? Eh bien, en réalité, on s'aperçoit que les grands poissons qui sont au sommet de la chaîne alimentaire dans la mer, que sont le thon rouge, l'espadon, le siki, le saumon, y compris le saumon sauvage, sont en réalité des poissons extrêmement contaminés par les métaux lourds, que sont le cadmium, le mercure, l'arsenic, le plomb, et par ce qu'on appelle les polluants organiques persistants, les POP. Ce sont des substances comme le pyralène, la dioxine, qui, quand ils rentrent dans le corps humain, mettent 30 ans pour en sortir, 20 à 30 ans. Donc, ce sont vraiment des cancérigènes très dangereux. Et on s'aperçoit que ces poissons sont très pollués par ces polluants et ces métaux lourds, au point même qu'on a pu trouver dans la chair de certains d'entre eux des concentrations en métaux lourds qui dépassent le seuil de définition des gisements miniers. C'est-à-dire que si vous prenez une poignée de terre dans une mine de cadmium et une bouchée de saumon, des fois vous trouvez plus de cadmium dans la chair de saumon que dans la terre de la mine.
C'est effrayant, mais vous dites quand même pas ne mangez pas de poisson.
Non, non. D'abord, il y a des poissons qui ne sont pas contaminés.
Oui.
Le cabillaud, la morue, la sole, les sardines, tout ça, ce n'est pas contaminé. Deuxièmement, je dis, écoutez, l'homme est très bien fait, il est protégé par des tas de mécanismes de résistance et donc l'organisme peut supporter d'avoir des pollutions par les métaux lourds de temps en temps. Mais l'AFSA, qui est l'Agence française de sécurité des aliments, qui est le ministère, si vous voulez, l'agence du ministère de la Santé et de l'Agriculture, dit bien dans son site internet que la recommandation pour les femmes enceintes et les enfants, c'est de manger du saumon qu'une fois par mois, qu'une fois de temps en temps, si vous voulez.
Donc, oui, c'est ça.
Voilà. Bon, si c'est pas bon pour les bébés et les femmes enceintes, c'est probablement pas fantastique pour moi non plus. et donc là, c'est du bon sens. Je dis, vous pouvez manger du saumon, vous pouvez manger du thon rouge. D'abord, le thon rouge, c'est dommage, il n'y en a presque plus, on pourrait peut-être les laisser vivre. Mais les autres, on peut en manger, mais il ne faut pas en manger tout le temps.
Les viandes maintenant, viandes rouges notamment. Alors vous dites, les viandes rouges ont été diabolisées. C'est amusant, vous dites, quand nous parlons de viande, nous, les Français et les Américains, nous ne parlons pas de la même chose. Donc les viandes rouges, ce n'est pas si méchant que ça.
Écoutez, alors là, encore une fois, la particularité de ce livre, et je reviens sur la viande rouge tout de suite, c'est justement de dire qu'il n'y a pas un seul régime. Il y a un régime pour la femme jeune, un régime pour la femme après la ménopause, un pour l'homme, un pour le fumeur, un pour le non-fumeur, etc. Et de la même manière, ce livre va reprendre à la fois les aliments, les poissons, les viandes, mais aussi le mode de cuisson et l'origine de l'aliment. Alors, sur la viande, toutes les études qui ont été faites sur le risque de cancer lié à la consommation de viande rouge, pratiquement toutes ces études ont été faites aux États-Unis.
Oui.
Et certaines ont regardé la quantité en grammes de viande rouge consommée par semaine, par exemple, d'autres en portions. Or, Est-ce que nous parlons de la même chose quand nous parlons de la viande rouge? Non. En France, 100 grammes de beefsteak, c'est très précis le beefsteak sur l'animal, 100 grammes de beefsteak français, c'est 150 calories et 4% de matière grasse. 100 grammes du même beefsteak, mais américain, c'est 295, c'est-à-dire le double de calories et 24% de matière grasse. Nous ne parlons pas de la même chose. Deuxièmement, quand on parle de portions, on dit le risque augmente si on prend plus de 3 portions. Oui, sauf que la portion française, elle est à 100 grammes. Les études de consommation le montrent à peu près. Oui. Et la portion américaine est à 190. Une portion américaine est le double d'une portion française. Et enfin, le mode de cuisson. Toutes les enquêtes de consommation montrent qu'en France, 70% des Français mangent la viande crue, carpaccio, tartare ou saignante. Alors que 70% des Américains mangent la viande, pour nous Français, carbonisée, c'est-à-dire marquée par la flamme.
Oui.
Or, ce n'est pas pareil. On sait qu'une cuisson à la flamme va provoquer l'apparition de substances cancérigènes qui donnent justement ce goût de brûlé et qui sont ce qu'on appelle les amines aromatiques et qui sont présents dans la fumée du tabac aussi, par exemple.
Donc
nous
ne
parlons
rouge.
Pas de la même chose.
Une viande rouge à la française, un steak frites, ben frites, je ne sais pas, mais en tout cas, un steak à la française, ce n'est pas mauvais.
Si l'huile a été changée pour les frites et qu'ils n'ont pas été carbonisés une fois de temps en temps, alors c'est
une fois de temps
frites,
en temps, c'est ça, oui.
Voilà, le problème des frites, c'est que ça fait grossir et qu'on sait que l'embonpoint augmente le risque de cancer du sein, de prostate, du côlon. Mais sinon, une fois de temps en temps, encore une fois, même de la viande américaine, une fois de temps en temps, c'est pas grave. Mais consommer régulièrement des grosses portions de viande, bien qu'aucune étude, encore une fois, je veux rassurer les consommateurs de viande, aucune étude, en tout cas, dans une consommation dite raisonnable de viande rouge, n'a jamais montré qu'il y avait un risque de cancer. Et la dernière, EPIC, la grande étude sur 480 000 volontaires suivis pendant 12 ans, qui est sortie il y a quelques semaines, montre bien qu'il n'y a pas d'augmentation du risque de cancer, notamment de cancer du côlon, de l'intestin, chez les mangeurs de viande, même quand ils en mangent beaucoup. Alors par contre, juste une seconde, si vous faites partie de ces 2, 3, 4% de Français ou de Canadiens peut-être, qui hyper consommer la viande, si vous mangez vraiment là, on parle de très gros consommateurs. Ces gens-là, d'ailleurs, n'ont pas ce seul défaut. Généralement, ils ne prennent pas de l'eau avec leur énorme côte de bœuf, ils boivent du vin. Ils ne prennent pas des haricots verts avec la côte de bœuf, ils vont prendre des frites.
Oui,
ils
ne
commencent pas par des carottes râpées, mais par une tranche de pâté. Et ils ne finissent pas par des fruits rouges, mais par un gros gâteau avec de la crème. Et ils finissent avec une petite prune, d'accord, avec un petit cognac. Oui. Et un cigare derrière. Et donc là, bien sûr que ces gens-là cumulent des risques.
Exactement.
Mais si vous êtes dans une consommation normale, le risque n'existe pas.
Fruits et légumes maintenant. Alors eux, verts, jaunes, rouges, blancs, ils ont tous des vertus. C'est bon, les fruits et légumes contre le cancer, non ?
C'est à la fois bon et puis en même temps, il ne faut pas faire n'importe quoi. Par exemple, les fruits et légumes qui sont très riches en bêta-carotène, c'est-à-dire la vitamine A, on s'est aperçu que ça pouvait augmenter le risque de cancer du poumon chez les fumeurs. Ou chez les ex-fumeurs récents.
Oui.
Donc chez ces gens-là, il ne faut pas consommer ça. De la même manière, les fruits et légumes comportent un certain nombre d'antioxydants, des substances qui réparent les mutations qui se produisent sur notre patrimoine génétique au cours de la vie de chacune de nos cellules. C'est un corps humain, c'est 1 million de milliards de cellules. Ces cellules vivent et meurent. Et pendant le temps qu'elles vivent, quand elles remplissent leur fonction, qui est de battre pour une cellule du cœur, de voir pour une cellule de l'œil, etc., pendant qu'elles assument leur fonction, elles respirent. Qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous respirez? Vous absorbez de l'oxygène et vous rejetez du gaz carbonique. Qu'est-ce que fait une cellule quand elle respire ? Elle absorbe de l'oxygène et elle relâche non pas du gaz carbonique, mais des radicaux libres, c'est-à-dire des dérivés de l'oxygène qui sont extrêmement corrosifs, qui sont caustiques, un peu comme de l'acide qu'on jetterait sur nos protéines et sur notre ADN, sur nos chromosomes. Et ces radicaux libres vont abîmer, vont muter notre patrimoine génétique, notre matériel génétique, et la cellule peut devenir cancéreuse. Alors on répare en permanence, toute la journée, toute la nuit, on répare cela grâce à des antioxydants, notamment trouvés dans ce qui colore les fruits. Et c'est pour ça que je donne une classification du meilleur moment pour prendre chacun des fruits et légumes en fonction de la couleur de ces fruits et légumes, du type d'antioxydant, et en fonction du fait qu'on soit fumeur ou pas fumeur, femme jeune ou femme âgée, homme ou femme.
Alors, rapidement, les sucres. Le sucre n'est pas cancérigène, vous dites. C'est intéressant, ça aussi.
Oui, le sucre n'est pas cancérigène, l'aspartame non plus. Il y a des rumeurs qui courent régulièrement, mais c'est en fait de la compétition entre des groupes d'industrie agroalimentaire. En réalité, l'aspartame n'est pas cancérigène, le sucre blanc n'est pas cancérigène. Ce qui est cancérigène, je le rappelle, c'est l'embonpoint, le fait d'avoir un indice de masse corporelle élevé, donc d'être gros, quoi, en un mot, d'être obèse. Et bien sûr que le sucre et les produits sucrés vont contribuer à cause de la gourmandise qui est associée. Mais consommer régulièrement et d'une manière tout à fait modérée, ça n'est pas cancérigène.
Et puis, un petit point en terminant cette revue des idées reçues. Le cancérologue exonère le vin. Ça, c'est important.
Ah bah oui.
Oui.
On vit dans une société qui tend à devenir de plus en plus hygiéniste, où on voudrait que nous ne mangions plus de viande rouge, qu'on ne boive plus de vin. Mais tout ça, c'est faux. Aucune étude n'a jamais montré. Écoutez, dans le fameux rapport du World Cancer Research Fund, qui est le rapport qui, tous les 3 ans, répertorie toutes les études qui traitent du lien entre alimentation et cancer, on voit qu'il y a à peu près une vingtaine d'études au total publiées sur le lien entre consommation de vin et cancer de la bouche. Finalement, quand vous regardez ces études, vous en avez 9 qui disent que ça augmente un peu le risque, 5 qui disent que ça le diminue le risque, donc ceux qui boivent ont moins de risque de cancer de la bouche, et puis le reste c'est ne dit rien, ne conclut pas. Quand vous mélangez tout ça, vous arrivez finalement à un risque qui serait peut-être augmenté de 2%, c'est-à-dire rien, parce que l'incertitude des méthodes de mesure qui consiste à demander à des gens qu'est-ce que vous buviez il y a 10 ans. Quand on a un décalage de 2%, alors que la méthode de mesure est aussi imprécise que peut l'être la mémoire des gens, je crois qu'il faut s'abstenir de dire quoi que ce soit. Ce d'autant que, deux choses, d'une part, depuis 2006, nous savons qu'en réalité, les cancers de la bouche, pour 60-70% d'entre eux, sont dus non pas à l'alcool et tabac directement, mais à un virus, qui est le même virus qui donne le cancer du col de l'utérus et que nous attrapons dans les rapports orosexuels pendant l'adolescence, c'est l'HPV, le papillomavirus. Et deuxième information, il y a eu 2 immenses études chez les adventistes du 7e jour, qui sont des adeptes d'une église extrêmement stricte en matière d'alimentation, qui ne boivent pas d'alcool et ne mangent pas de viande. Et ces études ont montré que ces gens-là, ces adventistes 7e jour, avaient autant de cancers du côlon que ceux qui mangeaient normalement de la viande, etc. Donc, vous voyez qu'on ne peut surtout pas conclure que boire modérément du vin va donner du cancer. Par contre, dépasser le seuil de 30 grammes d'éthanol pur par jour, c'est-à-dire 3 verres de vin chez l'homme et 2 verres de vin chez la femme, là, il y a une augmentation du risque de cancer du sein, du foie, du côlon.
Exactement.
Mais modérément, 2 verres chez la femme, 3 verres chez l'homme en moyenne, ça n'est pas dangereux. Au contraire, dans le vin, il y a du resvératrol, qui est un antioxydant extrêmement efficace, qui protège la vigne contre l'exposition au soleil, dont la vigne a besoin pour croître, mais qui, une fois absorbée, va protéger l'être humain de ces mécanismes de cancérisation. Donc au contraire, il ne s'agit pas à ceux qui ne boivent pas de se mettre à boire, mais ceux qui boivent, de boire modérément, n'augmente pas le risque de cancer.
Alors, rapidement, votre livre se termine par une série de conseils anti-cancer, les bons aliments, les mauvais aliments, on le trouve dans le livre. Mais le grand message, en terminant, Dr Kaya, c'est que même avec la meilleure alimentation, vous ne pouvez pas réduire de 50%, comme on l'entend parfois, vos risques de cancer, comme le prétendent peut-être les faux régimes anti-cancer. Vous réduisez de quelques points de pourcentage votre risque.
Voilà. Parmi les éléments qui m'ont conduit à écrire ce livre, ça a été mon agacement à un moment donné quand des gens qui ne sont pas face à des malades, face à des gens qui souffrent, face à des gens qui cherchent des raisons d'espérer et d'y croire encore, que ces gens ont prétendu qu'avec tel ou tel régime, on pouvait réduire de 50%, voire plus, le risque de rechute du cancer ou du cancer lui-même. C'est faux. Moi, ce que j'explique dans ce livre, c'est que avec tout ce que j'ai accumulé comme information dans ce livre, qui correspond à tout ce que la science a pu démontrer à ce jour chez l'homme, encore une fois. Je crois que je suis passé à côté de... Enfin, vraiment, c'est extrêmement complet. C'est très exhaustif, ce livre. Eh bien, pour autant, si vous suivez tous ces conseils, les règles d'or, que vous évitez les mauvais aliments, les flop 10, que vous mangez beaucoup des top 10, les meilleurs aliments, etc., bien sûr que ça concernera 20 à 30 % des cancers, on l'a dit au départ. Mais vous réduirez peut-être votre risque de quoi ? 3, 4, 5 %. Alors, est-ce que ça vaut la peine ? Je dis oui. Je dis oui parce que quand on arrive à des tels risques d'avoir des cancers comme on l'est aujourd'hui, un homme sur 2 va avoir un cancer dans sa vie. Une femme, un peu plus d'une femme sur 3. 37 % des femmes vont développer un cancer, 49 % des hommes. Réduire ce risque de 3, 4, 5 %, mais moi je suis preneur.
Je vous remercie beaucoup d'être venu en studio, Dr David Kaya. Je rappelle le titre de votre livre, « Le vrai régime anti-cancer ». Le vrai est écrit en rouge. C'est publié aux éditions Odile Jacob. Je vous remercie beaucoup, Dr Kaya.
Merci.
Et voilà, c'est la fin de cette édition des Années-Lumière réalisée par Dominique Lapointe avec à la technique Michel Potvin, les journalistes Sophie-André Blondin, Chantal Srivastava et Yannick Tremblay, journaliste au site internet Lily Boisvert, chroniqueur Yves Gingras. C'est Yannick Villedieu qui vous parle. Bonne semaine à l'écoute de la radio de Radio-Canada et à dimanche prochain pour une autre édition des Années-Lumière. Au revoir.
Bye.